Bonjour à tous, c'est Aurélien du blog Batteur sans limite. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Kevin Paradis, batteur de Mithridatic, de Svartkraun, que j'ai pu voir aussi dans un clip de Benighted. On va parler de ça aussi. Et donc, on va parler de vitesse et on va parler aussi de tournée. Comment est-ce qu'un batteur se prépare pour partir en tournée, etc. J'ai la chance de t'avoir juste avant que tu partes. Tu pars après-demain, il me semble. Je ne sais pas encore avec quel groupe, mais on va en parler. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en une minute, nous dire d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé la batterie, qu'est-ce qui t'inspire?
Bah écoute, merci pour cette entrevue. Alors, en fait, j'ai commencé la batterie à l'âge de 6-7 ans. C'était un peu hasardeux, en fait, puisque c'était tout simplement un mariage. Il y avait une batterie et puis j'ai joué dessus. Et ensuite, mes parents m'ont proposé de prendre des cours. Donc, à la suite de ça, j'ai pris des cours pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai arrêté. Je suis devenu autodidacte. C'est plus ou moins à ce moment-là que je me suis beaucoup plus dirigé vers la batterie métal extrême, on va dire.
Ouais.
Après pas mal d'années en fait à travailler avec des potes de lycée tout simplement, j'ai décidé que j'allais essayer de voir si je pouvais trouver des groupes qui avaient une autre envergure. J'avais besoin un peu de changer de style aussi. Et au bout de quelques temps, je me suis retrouvé avec des sessions intéressantes puisque j'ai commencé avec la session avec le groupe Benighted. Donc j'ai fait deux concerts avec eux avant de faire des clips, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai enchaîné des sessions. Je suis rentré dans des groupes comme Svartkorn. Et puis voilà, et du coup je me retrouve par exemple aujourd'hui à me préparer pour une tournée avec Melek Kesh, et on va jouer sur cette tournée avec le groupe Nile aussi. Voilà.
Ah ouais, avec Nile. Alors pour ceux qui Nile, c'est George Collias derrière les fûts, hein. George Collias qui est très connu pour sa technique de double pédale et qui a fait aussi beaucoup de DVD pédagogiques. Qui est très connu parce qu'il fait beaucoup de cliniques. Moi d'ailleurs, j'ai eu la chance de le voir à Brisbane en Australie où il a fait une clinique et il fait pas mal de DVD aussi. Donc il est bien connu dans le milieu. Et aussi pour éclaircir, alors comme je disais, on va parler de vitesse, vitesse à la double pédale, vitesse aux mains également, et de métal extrême. Ces groupes-là, comme Benighted, Svartkraun, etc., on est dans les combien de BPM en double croche? Pour donner une idée, on est à quelle vitesse là?
Alors, Svartkorn, quand je suis arrivé dans le groupe, j'ai adapté deux trois petits trucs à ma sauce. C'est pas un groupe où ça va très vite, hein. C'est un peu, il y a des tendances un peu black metal dans ce groupe et un peu aussi groove. Et du
Ouais.
coup, c'est pas le groupe le plus rapide. Je peux être amené à jouer jusqu'à 270 BPM et dans Benighted, c'est jusqu'à, on peut dire 280 voire 300 sur des vieux morceaux qu'ils ont faits et où aujourd'hui, quand on les joue en concert, on n'est pas très très loin des 300 sur certains morceaux. Ouais.
Ah ouais, d'accord. Ok. Et 300, donc là, tu fais dessus des blasts, c'est-à-dire que tu joues en continu, en double pédale, par exemple, en double croche, tu vas jouer en continu à ces vitesses-là.
Ouais, ça va être ça. Alors c'est sûr que, alors pour ma part, 300 c'est vraiment ma limite. Donc c'est sûr que ça commence à être compliqué en concert. Et pour les mêmes, par exemple, je vais utiliser une technique de main alternée pour le blast. Donc pour un bump blast par exemple où la caisse claire tombe sur le temps, je vais pas utiliser par exemple que ma main droite pour jouer la caisse claire, mais je vais alterner ma main droite et ma main gauche pour avoir plus de puissance parce que sinon le public n'entendrait rien du tout
Ouais.
à la puissance de frappe.
D'accord. Ok. Intéressant. Ok. Et comment est-ce que tu travailles alors pour atteindre des résultats comme ça, pour réussir à aller au-delà de 250? Dans la plupart des groupes de métal, je dirais qu'on est souvent habitué à des choses qui vont autour de 180 et 220. Là, on est déjà enfin, c'est des choses qu'on voit très régulièrement. Au-dessus de 220, je dirais, on est dans du métal extrême. On est dans des choses qu'on voit rarement. Il faut le chercher. C'est pas le genre de choses qu'on va tomber tout de suite. Du coup, c'est le sentiment que j'en ai en tout cas. Et je me demande, comment est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu travailles pour réussir à atteindre ces extrêmes, à faire partie de ces extrêmes?
Je crois que c'est beaucoup plus courant aujourd'hui que dans les années 2000 où là, en effet, il y avait que, en gros, des gens comme Derek Roddy et George Collias qui pouvaient se faire remarquer.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, on va dire. Mais c'est clair que c'est un investissement et c'est aussi pour ça que ça a pris du temps, ce qui est de plus en plus de batteurs qui soient capables de jouer à ce tempo-là. C'est un investissement parce que c'est un travail régulier où, en gros, il faut vraiment faire ça tous les jours ou se permettre un jour de repos par semaine quand on a atteint une certaine maîtrise. Mais sinon, il faut impérativement que ce soit tous les jours pendant 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, suivant le temps qu'on a. Et c'est pas que un investissement en temps, c'est aussi un investissement en termes de réflexion pour trouver les bons exercices et travailler correctement, parce qu'on peut très rapidement perdre son temps à mal travailler. Et il y a beaucoup de batteurs cette fois qui me parlent, qui travaillent parfois même plus que moi en termes d'heures, mais qui ont du mal à vraiment faire grimper les tempos parce que leur approche technique est pas la bonne et qu'en fait ils travaillent pas comme il faut et qu'ils vont plus avoir tendance à se blesser qu'à
Ouais.
vraiment progresser.
Ok, alors j'ai 30 questions qui me viennent en même temps. Je vais essayer de pas oublier celles que j'ai. Tout de suite, je me demande en fait, tu disais depuis ouais en 2000, il y avait Derek Roddy, George Collias, il y a aussi Dave Lombardo qui a vraiment donc le batteur de Slayer qui a popularisé déjà il y a quelques années la grande vitesse quoi à la double pédale. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a plus de batteurs qui sont maintenant on en trouve une flopée hein. Maintenant alors juste pour ceux qui sont pas familiers avec ce type de musique, c'est très facile d'aller sur YouTube et on en trouve tout plein qui sont plus ou moins connus. Enfin, il n'y a pas que George Collias maintenant quoi, il y en a vraiment beaucoup. C'est facile à trouver. Et est-ce que tu penses que la raison pour laquelle maintenant il y en a tout plein, si ça se trouve déjà avant il y en avait déjà mais ils étaient inconnus, on les voyait pas, il y avait pas YouTube ou je sais pas. Ou est-ce que tu penses qu'il y en a plus maintenant parce que maintenant on sait que c'est possible. Alors que par exemple, imagine-toi dans les années 70, quelqu'un qui disait, c'est un batteur qui disait, voilà, moi je vais jouer à 290 BPM en double croche sur une double grosse caisse. Est-ce que tu penses que dans les années 70, on aurait pu dire, ouais, c'est possible?
Clairement pas dans les années 70 parce que en termes de trigger, la technologie n'était pas présente.
Ouais.
Et s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que ça, c'est pas des tempos auxquels on peut jouer sans trigger. Enfin, on peut faire un blast en utilisant ses deux pieds jusqu'à 280, 300 BPM. Là, il n'y a pas de souci. Et si on veut jouer de la double à ces tempos-là ou même à 220, c'est quand même assez compliqué. Et donc, tant qu'on n'a pas eu les triggers, c'était pas envisageable. Par contre, quand ça a commencé, quand on a commencé à avoir des triggers qu'on pouvait installer pour les concerts, là, ça s'est démocratisé. Et puis Internet a certainement montré que c'était possible et a aussi créé une mode. Et puis est allé avec Internet aussi le fait que s'enregistrer à la maison, c'est devenu beaucoup plus simple très rapidement et qu'il y a beaucoup plus de batteurs qui ont commencé à mettre en ligne des vidéos de eux en train de jouer. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on les connaît ces batteurs parce que en fait. Peut-être que quand George Collias et Derek Roddy se sont fait connaître, il y en avait déjà pas mal. Et eux, ils ont pu se faire connaître à ce moment-là parce qu'ils sont arrivés au bon moment sur Internet. Il y a peut-être aussi ce facteur-là qui entre en jeu.
Ouais, tout à fait. Ok. Je me rappelle quand j'ai vu George Collias en Australie, il était, bon, effectivement, il est très très rapide, mais il dégage aussi une puissance. Je me rappelle qu'il était avec à la clinique, il y avait un autre batteur d'un groupe de death metal technique qui était, je ne me rappelle plus ni du nom du groupe ni du batteur. C'était un batteur australien, mais bon, pareil, hein, il allait aussi dans les bien au-delà dans les 200 BPM. Et il était très bon, mais il se dégageait pas grand-chose. Alors que George Collias, quand il est arrivé, c'était vraiment c'est le maître quoi. Il vient, boum, il joue et tout de suite il y a une puissance qui se dégage. Comme il pourrait y avoir un groove qui se dégage, là je dirais pas que c'est un groove, c'est plus une énergie comme une puissance qui se dégage. Donc même si aujourd'hui il y en a plein qui arrivent certainement à leur vitesse, je dirais ces personnes-là sont quand même les maîtres, faut pas les je dirais les dénigrer où il y a quand même quelque chose de surpuissant que j'ai pu constater avec eux. Qu'est-ce que tu en penses?
Il y a clairement quelque chose en fait dans le blast beat ou dans le jeu de batterie extrême qui s'imite absolument pas à atteindre la vitesse. Ça c'est clair que George Collias, une de ses grandes qualités, c'est qu'il y a un investissement quand il joue qui fait que ça sonne et que c'est pas juste il arrive à le faire. Je dirais même qu'en termes de propreté, quand on regarde certaines de ses performances, et notamment le Back Show 2012 à Paris, où c'est pas super précis, mais il n'empêche que ça fonctionne et qu'il y a des tas de batteurs qui pourraient peut-être être plus précis, mais ça fonctionnerait pas. Donc c'est pas que une question d'habileté technique à arriver à une certaine vitesse. George Collias, sa qualité, c'est que même quand il a un jour où ben voilà, il est fatigué, ça arrive à tout le monde et où il y arrive moins bien que d'autres jours, c'est pas grave, ça va sonner. Après, il y a quelque chose qu'il faut garder aussi en tête, mais ça me rappelle une anecdote aussi de ce back show. C'est que dans tous les batteurs que j'ai vus ce jour-là, celui qui m'a le plus marqué en termes de puissance, c'était Keith Scarlock, qui joue alors dans un registre totalement différent, parce que là c'est complètement pop, groove, et le kit était très très naturel, et en termes de puissance, là c'était exceptionnel. C'était très clairement pour moi le batteur qui était au-dessus de tous les autres ce jour-là, parce qu'il était sur quelque chose de très naturel, et il y avait énormément de puissance. C'était fantastique d'être en face de la batterie. Et je crois
D'accord.
que ça, c'est un truc, quand on fait du métal extrême, on doit quand même pas perdre contact avec ça. Et je crois que Georges Collias, par exemple, il a pas perdu contact avec ça, parce qu'il a commencé en faisant du jazz, par exemple.
Ouais.
Et ça, je crois que c'est important. C'est un batteur qui commence le death metal technique en se disant qu'en gros, il va être sportif et qu'il va calculer ses performances en termes de chiffres. Ça va pas le faire. Il va passer à côté de quelque chose, et
Ouais.
peut-être que même il va pas s'en rendre compte, et que c'est que des musiciens qui vont se dire, ce blast-là, il est en place, il a la vitesse, mais il y a quelque chose qui se dégage pas.
C'est une boîte à rythme, quoi. Il y a un ordinateur. C'est comme un ordinateur qui, c'est la première chose à laquelle je pense quand tu dis ça. Je me dis oui, un ordinateur te le fait, te le met en place nickel. Et puis bon. D'ailleurs, juste avant, tu parlais des triggers. Juste pour préciser, pour ceux qui connaîtraient pas les triggers, je vais essayer de le définir très clairement, très simplement. C'est un déclencheur électronique qui est placé sur la peau de grosse caisse, ou sur les tomes, hein, mais généralement c'est sur la grosse caisse qu'on le voit le plus souvent. Et pour chaque coup donné, déclenche électroniquement comme un sample, comme si on appuyait sur un sample, sur un bouton, il y a un son qui va être dégagé, donc un son de grosse caisse, ce qui fait que qu'on frappe fort ou pas fort, c'est pareil, le son qui sera dégagé sera le même. Donc à des vitesses, quand on joue à 250, forcément, on peut pas frapper aussi fort que quand on joue à 120 BPM. Donc ça permet de garder le même son. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou je passe à côté de quelque chose?
Ouais, c'est ça. Alors, après, à savoir qu'aujourd'hui, les triggers sur la grosse caisse ne se posent plus uniquement sur la peau, mais directement sur la pédale. On
Ouais.
a de plus en plus de systèmes qui se développent dans ce sens-là. Et alors ça, il faut pas oublier que le jeu extrême en batterie, il s'est aussi développé autour de ça, avec les Axis, qui ont inventé, c'était la première marque à faire un trigger directement sur leur pédale. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'en fait, un trigger qu'on pose sur la peau, il va être sensible à toutes les vibrations qu'il y aura dans l'environnement, et donc un rimshot sur la caisse claire ou même une descente de tom, ça peut le faire déclencher. Et parfois, il faut savoir qu'en fait, un rimshot sur la caisse claire peut faire beaucoup plus de vibrations qu'une frappe sur la grosse caisse d'intensité moyenne. Et quand on va jouer très vite, du coup, ça peut poser des problèmes, parce qu'on peut mettre une sensibilité de trigger qui soit va capter trop de rimshot, soit va pas assez capter de frappe sur la grosse caisse. Et ça, c'est l'intérêt des triggers qui sont directement intégrés sur la pédale, c'est que eux, ils captent que ce que fait la pédale, et du coup, on n'a plus d'interférence avec les autres éléments de la batterie.
Ouais, il n'y a plus de déclenchement non volontaire. Alors pour ceux, encore une fois, pour ceux qui sont pas trop familiers avec ce genre de choses, ça voudrait dire tout simplement qu'en faisant un rimshot, on entendrait un bruit de grosse caisse, parce que la peau de
Exactement.
grosse caisse va vibrer. Elle va vibrer parce que bah normalement, enfin elle vibre, voilà, ça ne s'entend pas à l'oreille, mais c'est assez pour déclencher le trigger, comme si on appuyait sur une touche de clavier. Et cette touche de clavier est trop sensible, le rimshot déclenche cette touche de clavier et bim, on a un coup de grosse caisse alors qu'on n'en veut pas du tout. Ok. D'accord, très bien. Et alors, tu parlais d'Axis. Toi, il me semble que tu es sponsorisé par Trix.
Exactement.
Ouais. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de ces pédales? Alors, les Axis, on peut les voir à la Baguetterie de Paris, je les ai déjà vues. Sur Internet, bon, elles sont très courantes. Il y a énormément de batteurs de métal qui les utilisent. Et là, en Amérique, c'est très facile d'en trouver aussi. Par contre, les Trix, alors est-ce qu'il y a un S, c'est Trick ou c'est Trix?
C'est trick.
Trick sans S.
Sans S.
D'accord, ok, ouais, Trick, Trick. Donc Trick, moi personnellement, j'ai jamais joué sur une Trick et j'en ai jamais vu en fait. J'en ai jamais vu en vrai. En vidéo, je vois très bien, je saurais la reconnaître, mais dans les magasins, etc., je n'en ai jamais vu. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ces pédales et dire pourquoi t'as choisi ce modèle?
Ouais, c'est une pédale qui est beaucoup plus rare que Axis, en fait, qui sont arrivés un peu plus tard sur le marché. Alors, il faut savoir que c'est une pédale qui reprend le brevet de la pédale Speed King de Ludwig, qui était la pédale utilisée par exemple par John Bonham de Led Zeppelin. Et en fait, la particularité qu'avait cette pédale, c'est d'avoir un ressort à compression. C'est-à-dire que sur toutes les pédales qu'on trouve dans le marché, la plupart du temps, le ressort, il s'étire quand on est en train de jouer et que la batte, elle bouge.
Ouais.
Il est étiré. Et là, sur cette pédale-là, en fait, ils ont un système qui serait trop compliqué à expliquer à l'oral comme ça. Il faut le voir pour comprendre. Et après, c'est très simple. En fait, le ressort, il est compressé quand on est en train de jouer. Ça change pour moi pas mal la réponse. C'est-à-dire que je sois en train de jouer lentement ou rapidement, je trouve que, en gros, la réponse de la pédale est à peu près la même. Alors que des fois, avec d'autres pédales, quand on veut jouer vite, ça a tendance à un peu s'emballer et à prendre beaucoup d'inertie. Là, l'inertie, je trouve qu'elle est beaucoup plus contrôlée. Alors ensuite, moi j'ai joué sur Axis quelques temps, Et en fait, j'ai cassé la pédale très 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 vite parce qu'elle avait un défaut.
Ouais.
Et il s'est avéré qu'en fait, c'est des pédales qui sont très fragiles. Et il y a beaucoup de batteurs qui se plaignent qu'il y a des choses qui cassent, que la visserie, c'est pas bien, etc. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je peux pas me permettre de casser ma pédale quand je suis en tournée ou des choses comme ça. Et ce que je veux avoir, c'est un système fiable. J'ai découvert donc Trick en cherchant comme ça sur Internet. À cette époque-là, elle était vendue sur le site de la Baguetterie Paris. Maintenant, c'est plus le cas, mais on peut la trouver sur Thomann en Allemagne. Et j'ai acheté cette pédale et je l'ai trouvée beaucoup beaucoup plus fiable que Axis. J'ai préféré la réponse. J'ai préféré aussi toutes les capacités de réglage qu'a cette pédale. Et ensuite, ils ont fait leur propre système de trigger aussi sur la pédale un peu plus tard. Et j'ai acheté ce système de trigger et que j'ai trouvé là aussi très très fiable. Et là, je vais faire ma cinquième tournée avec la même paire de pédales et le même système de trigger sans que j'aie eu de problème de fiabilité depuis ces cinq tournées et peut-être déjà deux, trois ans d'utilisation pour cette double pédale. Donc voilà, vraiment un produit fiable qui peut permettre de jouer avec beaucoup de puissance si on veut pas jouer avec des triggers à des tempos raisonnables. Donc vraiment un produit complet qui me donne vraiment une grande satisfaction.
D'accord, super. Je mettrai une vidéo dans la description, donc sur mon blog, pour ceux qui écouteraient ça depuis iTunes. Et je mettrai une vidéo du NAMM Show de 2016, là, qui était il y a pas très longtemps, où il y avait donc un stand Trick et où il explique le système et il a une pédale qui est démontée. Donc on peut très bien voir parce que le ressort à compression, donc sur les pédales, sur 99% des pédales, en gros tout sauf Trick. Si je dis pas de bêtises, le ressort est à l'extérieur. Les ressorts sont à droite et à gauche de la pédale, à droite et à gauche pour une double pédale. Et là, c'est à l'intérieur, on ne le voit pas. Donc ils ont une pédale qui est démontée, Trick, dans laquelle on peut voir le système. Je le mettrai, c'est très bien fait. Je mettrai aussi un lien pour back. Tu parlais du back show de Paris. Enfin, je mettrai un lien. Je sais pas, ça se trouve sur Internet. Il y a une vidéo qui a été. Toi, t'étais
Oui,
présent?
on trouve les vidéos. Donc, si on veut voir la performance de Georges Colias avec quelques imprécisions, mais qui quand même sonne plutôt pas mal. Alors, c'est très mal mixé aussi, hein, c'est le pauvre, c'est pas son avantage cette vidéo. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui se dégage, je pense. Et en effet, on la trouve en ligne.
D'accord, bah je chercherai ça, alors je le mettrai aussi. Ok, très bien. Et donc pour atteindre ces vitesses, tu travailles, tu disais, tous les jours entre 40 et 1h30, entre 40 minutes et 1h30. Et qu'est-ce que tu fais comme exercice? Tu parlais de personnes qui passaient certainement plus de temps que toi, qui travaillaient plus, mais qui travaillaient de toute évidence moins bien. Comment est-ce que tu fais pour faire les bons exercices? Qu'est-ce que tu mets en place?
Ça m'a pris du temps. Moi aussi, je me suis trompé beaucoup. Et quand on vient me demander des conseils, c'est souvent en fait les mêmes problèmes que ce que moi j'ai eu, que ces personnes-là rencontrent. Et donc, en fait, il faut se poser des bonnes questions. Et je crois que ça change aussi un petit peu d'une personne à une autre. Il faut être réceptif à ce qui est en train de se passer quand on travaille. Alors après, les gros conseils de base que je pourrais donner, c'est pas par exemple, c'est de par exemple de ne pas travailler tout le temps au même tempo. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, par exemple, décident qu'elles commencent à 120 BPM et qui, tous les jours, vont augmenter de 2-3 BPM et par exemple, au bout de je ne sais pas combien de temps, elles vont être en train de travailler uniquement à 200 et ensuite uniquement à 220, etc. Ça, c'est vraiment pas du tout, du tout la bonne méthode. Parce que suivant les tempos, on n'utilise pas du tout notre corps de la même façon et donc il faut s'entraîner à plusieurs tempos. Moi, par exemple, systématiquement, je vais commencer à 160 BPM, même si je me sens à l'aise à cette vitesse-là, je vais quand même travailler à 160 et ensuite par palier de 20, je vais augmenter jusqu'à 260, 280. Et parfois, si je ressens des difficultés, ben même, je vais faire des paliers de 10. Et en ce moment, ça m'arrive beaucoup de faire des paliers de 10 aux alentours de 200 BPM parce que je ne sais pas pourquoi, parce que ça demande plus de contrôle au niveau de la pédale et que c'est pas tellement dans l'endurance et dans la fluidité du mouvement. Ben, aux alentours de 200 BPM, j'ai des difficultés. Donc là, je vais insister un peu plus. Donc ça, c'est déjà un principe de base, c'est de travailler tout le temps d'un tempo pas trop élevé à un tempo élevé et de pas se dire je travaille vraiment que aux alentours de tel tempo. Non, ça marche pas. Il faut vraiment une grosse plage de tempo. Ça, c'est un premier conseil que je pourrais donner. Un deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de travailler sur différentes aptitudes. Par exemple, un jour travailler insister plus sur la vitesse, un jour insister plus sur l'endurance, un jour insister plus sur le contrôle, par exemple. Alors, pour insister plus sur la vitesse, ça veut dire que quand on a atteint son tempo maximum, eh bien, au lieu d'y passer, je sais pas, 5 minutes, on va y passer un quart d'heure, par exemple, en travaillant sur peu de mesures, hein. Ça va être, par exemple, 4 mesures de double croche, 4 mesures de croche, 4 mesures de double croche, 4 mesures de croche, et on va faire ça pendant pas mal de temps. Ça peut être un exemple. Pour travailler l'endurance, ce qu'on va faire, au contraire, c'est travailler sur minimum 16 mesures et même travailler sur 5 minutes sans s'arrêter à un tempo. Et on va essayer de faire ça à plusieurs tempos. Moi, par exemple, j'ai un exercice où je vais faire 5 minutes à 160 et puis sans pause, 5 minutes à 180, 5 minutes à 200, 5 minutes à 220, 5 minutes à 240 BPM. Là, je vais faire une pause avant de continuer encore. Et puis ensuite, on peut faire des exercices de contrôle qui vont passer par des rythmes. En fait, tout simplement, on va faire des rythmes à la double pédale, comme on pourrait faire des rythmes aux mains. Et on va insister beaucoup pour faire des exercices de contrôle à des tempos qui sont un peu intermédiaires, où on sent que la pédale a tendance à un peu nous échapper, un peu tendance à nous échapper. Et donc faire des rythmes à ces tempos où on sent que la pédale a tendance à nous échapper, ça aide beaucoup à garder le contrôle de la pédale et du coup à être précis. Ça aussi, c'est important d'être précis, c'est-à-dire de commencer son débit en étant précis et de le finir en étant précis. Parce qu'il y a beaucoup de batteurs qui sont pas précis quand ils commencent, pas précis quand ils finissent, et au milieu, c'est bien. Mais le seul problème, c'est que bah, ça perd en impact de ne pas être précis au début et à la fin. Donc voilà, pour donner un peu les conseils, 3 grands axes pour travailler: contrôle, endurance, vitesse, avec des exemples à chaque fois de comment travailler.
Contrôle, endurance, vitesse. Et ça, à chaque fois, d'ailleurs, chaque exercice va définir des tempos différents, hein. Par exemple, la vitesse, forcément, j'irai plus vite que l'endurance. L'endurance, je vais aller un petit peu moins vite, mais plus longtemps, certainement. Donc, t'as pas vraiment une journée type, j'imagine. C'est plus une semaine type. C'est plus d'un.
Exactement.
D'accord. Et est-ce que tu peux. Est-ce que tu le connais par cœur? Est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, bon, là, tu vas partir en tournée, j'imagine que c'est différent. Je pense pas que tu continues, enfin, j'en sais rien. Est-ce que tu continues à t'entraîner pendant une tournée?
En fait, il n'y a pas. Avant, je faisais ça, maintenant, je ne le fais plus. Il n'y a pas une semaine qui est exactement définie avec tel jour je fais tel exercice. Ce que je fais, en fait, c'est que j'évalue mes besoins un peu au jour, jour le jour. C'est-à-dire que si je sens que la dernière fois que je me suis entraîné, j'avais une faiblesse d'endurance, une faiblesse de vitesse, une faiblesse de contrôle, ben peut-être que le jour suivant, je vais insister sur ce sur quoi était ma faiblesse la veille. Et j'essaye quand même de faire attention que dans une semaine, j'ai au moins un exercice de chaque. Voilà, ça c'est sûr, je vais au moins faire un contrôle, au moins une endurance, au moins un exercice de vitesse dans ma semaine. Ensuite, pour les 4 jours qui restent, eh ben, je vais insister peut-être plus sur un de ces éléments si j'ai besoin, faire un jour de repos si j'ai besoin aussi. Mais voilà. Alors tu disais que les tempos allaient être différents. C'est pas tellement les tempos qui vont être différents parce que même quand je vais faire des exercices plus axés sur la vitesse, en fait, je vais quand même commencer à 160. Je vais essayer d'arriver plus vite à mes vitesses maximum et là passer plus de temps à mes vitesses les plus élevées. Mais je vais quand même travailler tous les autres tempos moins longtemps, mais je vais quand même les travailler. Par exemple, ça c'est important parce que si je faisais juste un échauffement et que j'essayais de suite d'aller à mes tempos les plus élevés, je pourrais quand même me blesser, ça pourrait poser des problèmes en termes de contrôle. En fait, rapidement, je pourrais peut-être arriver à jouer du 280, bah, très propre et être très à l'aise et perdre complètement mes aptitudes à des tempos plus lents. Et ça, il faut vraiment y faire attention.
C'est sûr, il y a toujours. Je me rappelle Georges Colias qui disait que quand il rentrait de tournée, il fallait toujours s'entraîner pendant la tournée, etc., à jouer d'autres choses. Donc lui, il parlait donc dans sa tournée avec Nile, donc un groupe de metal extrême. Il disait que quand il rentrait, bah, en gros, il savait faire du blast beat à fond, ça y est, pas de souci. Donc des riffs très très rapides, mais c'est tout. Qu'en gros, tu sais plus rien faire d'autre quand tu rentres d'une tournée où t'as passé plusieurs semaines à jouer les mêmes morceaux qui sont dans le même style. Bah après, quand on veut jouer quelque chose de plus lentement, ça peut être difficile. D'où l'intérêt, encore une fois, de jouer des styles différents et à des tempos différents. Et donc, contrôle, vitesse, endurance. Pour la vitesse, enfin, on va les prendre dans l'ordre. Pour le contrôle, j'imagine que c'est ce que tu disais, comme prendre un bouquin de caisse claire, prendre Stick Control ou Agostini, et suivre ce qui est le doigté qui est pour les mains, faire la même chose avec les pieds. J'imagine que c'est comme ça qu'on peut travailler le contrôle.
En fait, peut-être que là, par exemple, le doigté va être un peu moins important. On va pas vraiment peut-être réfléchir en termes de droite gauche, etc. Mais Ça va être trouver des rythmes qu'on peut très bien en fait entendre dans un morceau. Je sais pas, on prend le Despised Icon, Day of Mourning, par exemple. Donc le groupe c'est Despised Icon, et l'album c'est Day of Mourning. Et sur cet album-là, qui est une espèce de deathcore extrême, il y a plein de rythmes qui peuvent être assez difficiles à faire à la grosse caisse. Et puis en fait, ces rythmes-là, de les relever et de les faire tourner. Enfin,
Ouais.
c'est ce genre de truc qu'il faut faire. Plutôt que carrément prendre la méthode, c'est vrai que j'avais employé de dire comme les mains. En fait, c'est juste parce que je dis ça parce qu'au pédal, souvent, en fait, on fait un débit continu, on se pose pas trop de questions, alors qu'aux mains, c'est beaucoup plus varié. Et il faut pas oublier de travailler des rythmes aussi assez soutenus, quand même, mais des rythmes au niveau de la grosse caisse, quoi. C'est surtout ça. Alors, des fois aussi, le contrôle, ça peut être par exemple faire des croches avec le pied droit pendant une mesure. Et la deuxième mesure, on va continuer ces mêmes croches au pied droit, mais on va rajouter le pied gauche de sorte à faire des doubles croches. Et là, de faire que des alternances de une mesure avec un pied, une mesure avec les deux pieds, ça peut être très 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 difficile, surtout à certaines vitesses de faire ça. Et ça, par exemple, c'est un exercice de contrôle qui peut être très efficace.
Ouais, et qu'après on peut alterner, comme tu disais, faire une mesure pied droit et ensuite ajouter le pied gauche de telle sorte à faire des doubles croches. On peut faire l'inverse aussi, de faire une mesure pied gauche et ensuite ajouter le pied droit de telle sorte à faire des doubles croches, mais qui commencerait par le pied gauche. Donc là, pour les droitiers, quoi, hein, on part de travailler le pied faible. C'est bien ça?
Exactement, c'est très important de faire ça. T'as raison d'insister sur ça. Ça aussi, c'est pareil, c'est un très bon exercice de contrôle et puis c'est la bonne occasion pour travailler le pied faible. Enfin, c'est souvent un peu, je veux dire, travailler le pied faible en se disant je vais faire 5 minutes de croche à 200, par exemple, juste pour le faire travailler un peu, c'est super lassant. Tandis que d'intégrer vraiment le pied gauche aux exercices qu'on fait déjà, en faisant juste un effet miroir des exercices, quoi. Les exercices qu'on commence au pied droit, on va peut-être les faire pendant 2 minutes, et puis les 2 prochaines minutes, au lieu d'augmenter le tempo, on va faire les mêmes en commençant à gauche. Et ça, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps. Tous les exercices, systématiquement, je les fais avec cet effet miroir.
D'ailleurs, j'ai vu récemment dans une de tes vidéos, alors tu as donc une double pédale et à côté de ta pédale droite, tu as une autre pédale qui apparemment est reliée comme un système de Charleston hydraulique avec un tuyau, mais seulement c'est pas un Charleston, c'est deux cymbales, il me semble, comme une China et une Crash ou quelque chose comme ça.
Alors sur l'album de Mithridatic, c'est ce que j'ai utilisé en fait. C'était un bottom de Charley et une cymbale chinoise qui était montée pour faire un Charleston, tout simplement, que je contrôlais en effet avec un pied de Charleston à câble.
Ouais. Donc c'est comme un Charleston mais modifié en mode China. Et il y a un riff où tu fais un blast beat. Donc un blast beat, c'est une alternance très rapide du pied et de la main, comme un pumchak, pumchak, pumchak. Mais seulement là, on va être en double croche et à des tempos au-dessus de 200 BPM. Donc ça fait un effet mitraillette, si on peut dire ça comme ça. Et là, tu le fais en utilisant le pied gauche. Tu fais un blast beat en utilisant le pied gauche et avec le pied droit, tu utilises ce charlet modifié. Donc là, je pense que c'est un très bon exemple du contrôle, d'être capable de faire ça avec le pied gauche. Enfin, moi, ça m'a vraiment impressionné de voir un blast beat du pied gauche. Donc j'imagine que c'est le résultat des exercices dont tu parlais, de travailler le pied gauche, le contrôle, ce genre de choses.
Oui, exactement. En fait, les blast beats, je les ai travaillés à un pied pour pouvoir libérer l'autre pied pour jouer le charlet. Pour moi, c'était vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de batteurs de métal qui oublient de jouer avec le charlet, tout simplement. Et le blast beat, ça me paraissait vraiment une très bonne occasion pour réintégrer un jeu avec le charlet. Et donc, ensuite, j'ai un exercice qui est assez orienté sur la coordination du pied et de la main pour le blast beat, justement. Et dans cet exercice-là, pareil, je fais effet miroir et à un moment donné, je fais tout simplement le blast beat avec le pied gauche et je me sers du pied droit pour contrôler mon petit charlet d'effet qui est composé d'une crash et d'une chinoise. Alors, depuis, je n'utilise plus exactement ce charlet-là, mais c'est un peu le même principe que j'ai. Et du coup, ça me permet en effet de faire des blast beats avec le pied gauche et de quand même jouer un charlet sur ce blast beat-là. Et là, j'hésite pas aussi, pareil, à pousser les tempos et maintenant, j'ai à peu près la même dextérité. Si j'utilise le pied droit ou le pied gauche, et avec un contrôle du charlet, ça ne me pose pas de problème.
Ouais, tu t'arrives vers une ambidextrie, quoi. Tu commences à être ambidextre avec les pieds.
Ouais, pour le blast, en gros, c'est bon.
Ouais. D'accord. Ouais, c'est très impressionnant. Tu te rappelles pour quelle chanson c'était? Que je puisse mettre un petit lien aussi dans l'article?
Alors sur Mithridatic, j'ai dû l'utiliser ça beaucoup sur Misérable Miracle. Alors là le tempo est pas super élevé sur ça, mais pour avoir des tempos plus élevés, il y a certainement plusieurs de mes vidéos sur Internet où on trouve ça. Alors sur Facebook par exemple, j'ai mis une vidéo en ligne qui s'appelle The Breathing Drum Technique, où à ce moment-là, oui, je fais un blast avec le pied droit qui est à 250 et où je me sers quand même du charlet. Les morceaux de Mithridatic où je me suis beaucoup servi de ça, c'est Misérable Miracle.
D'accord, ok. Je chercherai ça et je le mettrai aussi dans l'article, en lien dans l'article. D'accord. Et alors, combien de temps ça prend, combien d'années en travaillant comme ça, 1 heure et demie par jour sur ce type d'exercice, ça prend combien d'années pour réussir à cette maîtrise, réussir à jouer au-dessus de 250 BPM?
Tout dépend si on part d'emblée avec les bons exercices ou si on a besoin de les faire. Moi, j'ai quand même bien perdu un an, voire 2 ans, à commencer à trouver des exercices qui marchaient vraiment et aussi d'avoir l'habitude tout simplement dans ma journée d'arriver à intégrer ça, parce que c'est pas évident quand on passe déjà pratiquement 1 heure au pad pour les mains, de se dire qu'on va intégrer en fait une autre heure dans sa journée pour les pédales. En fait, au début, ça a aussi été assez compliqué.
Ouais.
Je ne vais pas le cacher que je suis pas de suite arrivé à bosser 1 heure les pédales tous les jours, loin de là. Donc ça m'a fait partir avec pas mal de retard. Et si on est sérieux dès le début, je pense qu'en 2 ans, on arrive à de très bons résultats. Et si il faut le temps de se faire ses propres exercices, etc., il faudra 4 ans pour arriver à des bons résultats, pour être assez à l'aise à 250. Voilà, je pense que c'est à peu près ce qu'il faut compter. Ça peut venir assez vite, hein, franchement, quand on a les bons exercices et qu'on travaille régulièrement, ça peut venir assez vite. Après, ben, il y a des fois, ben, on est en face d'un mur et on met du temps à passer un palier, et voilà. Mais clairement, avec une bonne méthode et en bossant tous les jours, on peut vraiment progresser vite.
Ouais, je pense que c'est très important de le souligner parce que c'est le genre de choses quand on te voit jouer, qu'on voit des batteurs jouer à ce type de vitesse, c'est typiquement le genre de truc où on se dit waouh, mais alors ça c'est comme si c'était réservé à une élite, que tout le monde ne pouvait pas arriver à ce type de niveau ou qu'un certain talent leur permettrait de réussir. À cette vitesse, je pense que c'est vraiment ouvert à tous ceux qui sont prêts à travailler, qui sont physiquement bien conditionnés aussi. Et on va pas parler de l'âge. Peut-être que si on commence à 70 ans, je sais pas si c'est encore possible. Le corps ne réagit pas de la même manière. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. C'est possible. Et le fait que tu dises oui, en 2 ans, c'est quelque chose d'atteignable, c'est encourageant. C'est encourageant et c'est motivant, je trouve.
Ben en fait, il faut avoir à l'esprit que c'est pas un sport.
Ouais.
Donc, en fait, c'est pas comme dans le foot à 35 ans on commence à être un peu grillé, ou pareil dans l'athlétisme, ce genre de truc. Enfin, c'est pas le cas là pour la batterie. Franchement, ça, j'y crois pas une seule seconde. Et pourquoi je dis c'est pas un sport? En fait, c'est plus une maîtrise technique en fait. Et donc, du coup, malgré l'âge, même si on commence ça assez tard, on peut y arriver. Alors après, par contre, le problème de quelque chose qui est une maîtrise technique, c'est aussi qu'on peut se tromper vraiment dans la façon dont on s'entraîne, mais vraiment beaucoup. Et donc, on peut vraiment pédaler dans la semoule pendant longtemps. Et il faut pas croire non plus. Je dis en 2 ans, on peut arriver à de bons résultats, mais c'est pas parce que s'il y a des personnes qui m'écoutent ici et qui se disent, moi, ça fait 2 ans que je travaille vraiment beaucoup et j'y arrive pas. En fait, il faut pas penser que ça veut dire que vous êtes nul ou quoi que ce soit. Il faut pas se sentir dégradé par ça. C'est juste que bah, malheureusement, c'est de la technique et que des fois, en fait, on n'arrive pas à choper le truc, on n'a pas les bons exercices pour progresser, etc. Et que des fois, quand on n'a pas de professeurs et de personnes qui peuvent vraiment assister à ce que vous faites et vous dire ce qui va pas et vous faire un bon programme, vous aider à trouver les bons exercices, bah, des fois, on peut passer à côté. Donc, c'est accessible, mais ça ne veut pas dire que c'est simple non plus. Et à ceux qui n'y seraient pas arrivés dans le temps que j'ai indiqué, bah, faut pas croire que ça veut dire que vous valez rien ou quoi que ce soit. Vous avez certainement aussi beaucoup de qualité sur la batterie, et ça, il faut vous rappeler de toujours prendre du plaisir dans votre instrument, même si vous n'arrivez pas à jouer à 250 BPM. Ça compte pas, en fait, à la limite, pour jouer de la batterie. Ce qui compte, c'est que vous fassiez des trucs qui sonnent et dans lesquels vous preniez plaisir. Et voilà, encore une fois, en 2 ans, on peut arriver à faire quelque chose, mais même si au bout de 2 ans, vous n'êtes pas arrivé, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. C'est que voilà, c'est technique, et quand c'est technique, il y a toujours une phase d'apprentissage qui, quand on est seul, peut être compliqué, quoi. C'est comme apprendre à être forgeron tout seul, par exemple, et tout un tas de métiers d'artisanat seul à apprendre, c'est l'enfer. Et en fait, c'est un peu pareil pour la batterie. Moi, j'ai vraiment senti des phases où j'aurais bien aimé avoir de l'aide et où je n'en avais pas, et où les vidéos sur Internet ne m'aidaient pas vraiment et ne me passionnaient pas vraiment, et où bah, être autodidacte là-dedans, ça demande. Il faut se battre, quoi. Et c'est pour ça que moi, je dis, j'ai perdu du temps, et honnêtement, voilà, j'ai certainement perdu au moins 2 ans à travailler pas efficacement.
D'accord. Et est-ce que tu... Alors, tu disais que tu avais pris 10 années de cours, il me semble, au début de l'interview, mais ça, c'était quand tu commençais, donc tu avais 6 ans, donc ça devait être de tes... J'imagine quelque chose comme de tes 6 à 16 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, grosso modo, moi je pense c'était 7 ans mes premiers cours. J'ai dû commencer à toucher une batterie aux alentours de 6 ans, et mes premiers cours devaient être à 17 ans, à 7 ans pardon, et j'ai dû arrêter à 17.
Et depuis, du coup, tu n'en as pas pris. Enfin, t'as pas continué à prendre de cours depuis tes 17 ans.
Non.
Et quand tu à 17 ans, tu jouais à quelle vitesse? Je pense que t'en étais où à 17 ans?
En fait, à ce moment-là, j'étais rapide aux mains, mais pas du tout aux pédales déjà, parce que j'avais tout simplement pas de double pédale pour commencer.
Ouais.
Donc voilà, je jouais dans un genre différent. Hein. Moi, j'ai pris des cours, j'ai commencé, c'était méthode Dante Agostini. Mon prof était plus axé funk, jazz, et on travaillait beaucoup dans ces aspects-là. Moi, j'écoutais plus du heavy metal à cette époque-là. Et en fait, le heavy metal, je le jouais sans double pédale. Les tempos étaient accessibles avec une simple pédale. Donc en fait, je jouais ça à la simple. Et en gros, voilà comment ça se passait. Et j'ai dû acheter une double pédale, en gros, à la fin de mes cours, je crois, quelque chose comme ça. Donc, à 17 ans, ouais, c'était genre ma première double pédale. Et à ce moment-là, bah, c'était la galère. Hein. Je ne jouais pas vite. Hein. J'essayais de tenir des tempos. En fait, je pense même que je galérais plus à faire peut-être hein, des débits avec la double pédale que ce que j'aurais pu faire avec la simple. Parce que j'étais tellement habitué à jouer avec la simple que la double au début. Début, c'est dur, hein. C'est vraiment contre-intuitif quand on n'a pas l'habitude de mettre ses 2 pieds sur une pédale de grosse caisse. Hein. En termes d'équilibre, c'est l'enfer au début. Il y a une bonne phase d'adaptation quand même, ne serait-ce que pour faire du 120-140 BPM, bah, il faut une phase d'adaptation.
Ouais, et du coup, tu as appris tout seul la double pédale. La batterie, tu avais de bonnes bases, donc forcément 10 ans, même si ça ne concerne pas la double, ça t'apprend à bien travailler ton instrument, tu apprends l'importance de la posture, de position, etc., de pas prendre de mauvaises habitudes, mais tu as appris avec des vidéos sur Internet et en allant à des concerts, etc.
Alors les vidéos, ça m'a jamais aidé. Mais alors
C'est vrai?
ça m'a jamais aidé. En fait, il y en a juste quelques-unes, comme le premier DVD de Georges Colias, où tout ce que j'ai pu regarder de ce DVD que j'ai jamais acheté, que j'ai juste regardé sur Internet ce que je trouvais qui était issu de ce DVD, ça m'a juste motivé. Mais alors en termes de non, ça m'a jamais aidé vraiment. Tout ce que j'ai vu d'exercices, etc., ça m'a jamais aidé. Le reste, c'était 100% autodidacte. Mes exercices, c'était moi qui les trouvais. Si après, je trouvais quelqu'un qui faisait les mêmes, bon, bah ouais, ok, mais j'avais besoin par moi-même de me rendre compte de pourquoi je devais faire l'exercice. Parce qu'en fait, il y a plein de vidéos qui montrent les exercices, mais on ne sait pas pourquoi il faut le faire et à quoi il faut être attentif quand on fait l'exercice. Alors, moi qui ai tendance à être des fois un peu têtu, mais si on m'explique pas pourquoi il faut que je fasse et à quoi il faut que je sois attentif quand je le fais, mais en fait, je m'en fous et du coup, je vais pas faire l'exercice. Alors après, du coup, les 10 ans de cours de batterie, ça m'a servi à au moins reconnaître quand, clairement, j'allais dans une direction qui marchait pas et à trouver les défauts plus vite. C'est-à-dire que jamais ça m'est arrivé de persister 6 mois dans une mauvaise direction. Je pouvais me rendre compte avant que clairement, je travaillais pas comme il faut. Donc, dans mes années de galère où pour apprendre la double pédale c'était difficile, quand même mes années de cours m'ont été utiles à moins galérer. J'aurais sûrement encore plus galéré si j'avais jamais pris de cours de batterie.
Ouais, d'accord. Et la position, l'équilibre, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Tu disais qu'il y avait toujours, au bout de 6 mois, enfin avant 6 mois, tu voyais ce qui n'allait pas, par exemple. Est-ce que ça t'est arrivé de te remettre, de changer ta posture, de changer tes réglages, etc.? C'est quelque chose aussi qui changeait, indépendamment des exercices, donc?
Ouais, bah, c'est-à-dire qu'en fait, au début, on a un peu tendance à remettre en cause tout sauf soi. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a très envie de faire. Alors, c'est la faute de la double pédale, c'est la faute des réglages de la double pédale, c'est la faute de la peau de la grosse caisse, c'est la faute de la hauteur du siège. Donc, bon, faut savoir qu'avec à peu près n'importe quel type de réglage, n'importe quel type de hauteur de siège, blablabla, pour arriver à jouer vite. C'est vraiment, il faut s'habituer aux conditions et en tirer le meilleur. Après, je pense quand même qu'il y a des positions et des réglages qui facilitent les choses. Et je dirais que ce qui facilite les choses, c'est de ne pas mettre ses battes trop près de la peau, pour garder de l'inertie. Si on n'en a pas, ça va être beaucoup plus difficile. Et je vous parle même pas de contrôle de pédale, ou alors là, pour être précis, bah, ça va être très dur. Il faut tendre les ressorts. Pas forcément au maximum, mais pas loin. Et ensuite, en termes de hauteur de siège, il faut avoir les cuisses à peu près parallèles au sol. En tout cas, jamais il faut s'asseoir plus bas que ça. Si vous, il faut que ça soit, les, encore une fois, voilà, les cuisses parallèles au sol, ou on s'assoit un petit peu plus haut, mais surtout pas plus bas. Voilà, en termes de position et de réglage de double pédale, en gros, c'est ça. C'est vraiment ce qui va vous faciliter le plus. Alors après, la tension du ressort, moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'ai tendu petit à petit. Je suis pas arrivé, j'ai pas pris la trique, par exemple, et j'ai pas mis les ressorts à fond de suite. J'ai commencé à mi-tension, en gros, et puis petit à petit, j'ai tendu. Alors au début, je tendais, ne serait-ce que dans la même session où je m'entraînais, je le tendais. Et progressivement, il m'a fallu 3 à 4 jours avant que je retende un peu, voire une semaine avant que je retende un peu. Et après, voilà, j'ai atteint la tension maximale. Ensuite, j'ai décidé que j'allais enlever un peu de tension. Et depuis, je suis resté à ce réglage-là.
D'accord. Et là, du coup, t'as juste enlevé un petit peu de tension, t'es pas au maximum de ton ressort.
Voilà.
Ok. Et avant, tu parlais du fait que je reviens vers le fait de travailler les exercices, de travailler plusieurs heures par jour, etc. Et il y a un facteur qui entre en compte forcément, c'est la motivation. Et tu disais que les vidéos pédagogiques de Georges Collias, par exemple, en elles-mêmes ne t'ont pas vraiment servi, mais elles t'ont motivé. Et quand on se dit, ok, aujourd'hui, je vais travailler 1 heure de pad avec les mains et ensuite 1 heure de double pédale, faut s'accrocher quand même. C'est quelque chose qui mentalement est éprouvant. Comment est-ce que tu abordes ce côté-là? D'où tu tires ta motivation?
Faut avoir une raison de le faire, et moi la raison de le faire c'était une raison artistique. Enfin, quand j'ai regardé Georges Collias jouer, je trouvais que c'était bien, mais que c'était bien pas parce qu'il jouait vite, mais parce que ça me plaisait, que je trouvais que c'était justifié par rapport à la musique qu'il y avait derrière et que ça, bah, ça sonnait quoi, et que ça le faisait. Et même récemment, quand je me suis avec Mithridatic, en fait, je me suis vraiment remis en défi, comme ça faisait longtemps que je m'étais pas reposé des défis techniques. Ça faisait longtemps que quand j'étais sur mes pads. Au bout d'un moment, ma seule motivation, ça commençait à être, bon, le record du monde, il est où, en fait, en vitesse? Puis, je me disais, ouais, non, en fait, je m'en fous. Voilà, c'est ça, ça me motivait absolument pas d'atteindre le chiffre. Donc, si vous vous dites, je me mets sur mes pattes pour atteindre le chiffre, peut-être que pour vous, ça va marcher. Il faut trouver ce qui marche pour vous, hein. Moi, en tout cas, ça n'a jamais marché. Ce qui a marché, c'est de me dire, concert, ça a toujours été la plus grosse motivation. Bah, je vais pouvoir le jouer et les gens, bah, ils vont pouvoir l'entendre et peut-être que ça va leur plaire comme moi, ça me plaît. Et ça, pour Mithridatic, ça a énormément fonctionné. Des morceaux comme Hunting Fever, par exemple, à une époque où je pouvais jouer 16, 32 mesures à 240, là, il fallait jouer plusieurs minutes à 240 sans s'arrêter. Et il n'y a plus que je travaille, quoi. Voilà. C'est un truc qui m'est venu pendant le morceau, quoi. Jouer le morceau en répète, je me suis dit, mais là, en fait, j'ai pas envie d'arrêter la double. J'ai envie qu'elle continue. Et j'étais pas capable de le faire. Et là, je me suis dit, ben, ça, je vais le travailler. Et là, j'ai eu la motivation de me dire, ben, je vais travailler sur 240 BPM pendant 5 minutes pour être sûr que les 3 minutes de Hunting Fever, je pourrais toujours les faire. Et ça a été la même chose pour I Will Harm de l'album Misérable Miracle. Et la même chose pour un morceau qui va encore plus vite. Qui est Hell's Compass Point sur Misérable
Encore plus
Miracle
vite.
aussi, où en gros là c'était pour les mains. Et là pour te dire, ça faisait très 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 longtemps que je ne m'étais pas posé de défi aux mains, mais quand je dis très longtemps, ça veut dire bah, depuis que j'avais 19 ans, on va dire, allez, ouais, 18-19 ans, depuis les mains, je n'avais pas trop cherché à faire progrès. Et là en fait, il fallait tenir 32 mesures de blast à 280 sur la batterie. Alors autant sur pad, ça me posait pas problème et je pouvais même jouer plus longtemps sur pad, hein, de style plusieurs minutes à 280. Autant sur la batterie pour faire sonner le blast, là, bah, c'était très dur et du coup, bah, ça m'a posé un défi et c'est ce qui a fait que sur mon pad, quand j'avais atteint 280, je me suis dit non, en fait, je vais essayer de mettre plus de puissance dans mes frappes. Et à une période où je pouvais jouer à 280 BPM pendant 5 minutes sur un pad sans m'arrêter. Je me suis dit, en fait, là, ce que je fais, il n'y a pas assez de puissance pour que ça le fasse vraiment sur la batterie. Donc, je vais augmenter la puissance que je mets Et tant pis si ça me renvoie en arrière en endurance, et puis je reprendrai l'endurance. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis en train d'appliquer le même régime à 300 BPM pour avoir plus de puissance et plus d'endurance à 300. Mon objectif déjà, c'est 1 minute 30, ce sera déjà bien pour 300 BPM. Et parce que je sens que ça va m'aider à faire sortir ce blast de 32 mesures à 280 sur Hell's Compassist Point. Et que si je travaille pas ça, j'y arriverai pas. Donc la motivation, c'est parce que là, il y a un riff de guitare, que j'ai entendu cette partie de batterie, et que j'ai beau chercher, pour moi, il y a que cette partie de batterie qui souligne au mieux le riff, et que si je peux pas faire cette partie de batterie-là, c'est de ma faute, et c'est pas bien. Et puisque ça sonne, il faut que je travaille pour le faire. Donc ça a toujours été ma motivation, et quand je suis sur les pads, à partir d'un certain tempo, quand j'en ai vraiment débuté, je chante le morceau dans ma tête pour lequel je veux faire cette partie-là. C'est ce qui me motive à tenir et à continuer à faire le truc, alors que des fois, en fait, j'ai pas envie parce que c'est pas très amusant de faire ce travail-là.
Ouais, d'accord. Donc oui, c'est vraiment au service de la musique, c'est ça qui te motive. Et alors après, il y a souvent ce débat aussi, c'est pas un sport et tout ça. Et moi, je me dis toujours, c'est clair. C'est beaucoup plus intéressant. Enfin, moi, je trouve, c'est mon point de vue. Je rejoins ton idée. C'est beaucoup plus intéressant de se dire, de servir la musique pour faire quelque chose. C'est une idée qui est plus noble. Mais après, le fait, il y en a qui vont vouloir casser le record du monde et peut-être même qui ne sont même pas batteurs. Si ça se trouve, des personnes qui font que du pad et qui travaillent que la vitesse, comme un sport, c'est plus vraiment de la musique. Je pense pas qu'on peut rentrer dans la musique. Mais c'est cool aussi, on s'en fout. Le but, c'est de prendre du plaisir. Si ça leur plaît de faire ça, tant mieux pour eux. Ça veut pas dire qu'ils seront bons dans un groupe. C'est juste, ça, j'en profite juste pour lancer cette idée, parce que je revois souvent ces débats, oui, de se dire la vitesse pour la vitesse. Bah, quand il y a un coureur qui, voilà, Usain Bolt, il a envie d'aller le plus vite possible, ça dérange personne, quoi. Donc ça peut aussi être un choix, tout simplement, de par plaisir, se dire, bah, je kiffe aller vite sur le pad. Ok, pas de problème.
Après,
et du coup, quand on...
Si on a envie de faire ça, moi je comprends pas pourquoi en fait on vient dans ce milieu-là. Il y a des structures sportives qui sont là pour des choses qui sont des sports et qui vous aurez des coachs, vous aurez accès à des gymnases, à des trucs pour vous entraîner. Enfin, vous aurez tout le matériel, des compétitions. Et du coup, si ce que vous aimez c'est ça, c'est la compétition, je pense qu'il faut il faut aller faire du sport parce que vous vous épanouirez plus là-dedans que là dans un milieu où moi, si je veux, par exemple, rentrer en compétition pour un record, je suis obligé d'acheter moi-même le bromomètre qui vaut 200 euros et je suis pas sûr que mon record soit authentifié parce que les conventions se font la plupart du temps aux États-Unis et que si on veut les faire en Europe, souvent, c'est sur des festivals de métal où on reste 3 jours à camper et donc, en termes de fraîcheur physique, pour battre le record, c'est quand même pas top. Donc, en fait, voilà, si on a envie de faire de la compétition, je pense qu'on a tout à fait le droit d'avoir du plaisir à faire de la compétition et j'ai vraiment rien contre ça. Et il faut se réfléchir à quelle est la structure la plus adaptée pour faire la compétition. Et je crois que la batterie, c'est pas le milieu le plus adapté pour faire cette compétition et prendre du plaisir. Après, moi, je dénigre pas ceux qui battent les records, parce qu'il y a de l'investissement et voilà, hein, ça reste qu'ils ont une maîtrise et qu'elle peut être enviable. Ça, il y a de l'investissement, de la passion aussi de leur part, donc ça reste respectable.
Ouais, tout à fait. Et oui, je suis complètement d'accord. Leur épanouissement mental sera certainement bien plus élevé dans quelque chose qui rentre dans tous ces codes, c'est-à-dire une piste d'athlétisme avec un coach, un gymnase et compagnie, plutôt que derrière leur pad, effectivement. Et quand on commence à travailler autant et que on se dit voilà, je vais réussir à jouer plusieurs minutes à 280, à 300 et à le faire plus fort pour que ça sonne bien sur la batterie, comment est-ce que tu fais pour éviter les tendinites et autres blessures, etc.?
C'est une bonne question parce que pour les mains, puisque là, c'était ce dont je parlais juste à l'instant, en gros, quand j'ai arrêté de prendre des cours et que en fait, ça a coïncidé avec le moment où je suis venu à Lyon pour refaire mes études, là, à ce moment-là, j'ai eu une tendinite qui ne me passait pas, mais vraiment pas. J'avais des douleurs, surtout au poignet droit, et c'était... Je m'arrêtais pendant une semaine, je reprenais, ça revenait, il n'y avait pas moyen, quoi. En fait, je me suis dit, si je fais des tendinites comme ça, c'est que clairement, la technique que j'emploie n'est pas la bonne. C'est une technique qui blesse, c'est pas une bonne technique. Et là, je me suis dit, en fait, je vais pas m'arrêter. La douleur était pas insupportable pour jouer, je la laissais pas s'installer. Et je me suis dit, vu qu'elle est légère, ça me permet d'avoir un signal d'alerte de suite que la technique est pas bonne, ben je vais trouver une technique qui me fait pas mal malgré cette espèce de petite tendinite qui reste là et qui a pas envie de partir. Et en fait, c'était ça. J'ai changé ma technique à ce moment-là et depuis, je n'ai plus jamais eu de tendinite aux mains, même en entraînant beaucoup. Après, je pense que quand on est fatigué, parce qu'on a très très mal dormi ou quoi que ce soit, il faut faire attention, tout simplement. Il faut s'échauffer systématiquement, pas commencer par les tempos les plus élevés. Et puis, quand on est très fatigué, au pire, on fait une journée de pause et on s'entraîne pas, ou alors on se concentre sur des tempos plus lents en travaillant d'autres aptitudes que la vitesse. Et voilà. Et en fait, après, c'est l'intelligence aussi de se dire. Ok, je suis complètement lessivé, je suis crevé, et je vais pas arriver derrière le pad et bourriner, voilà, parce que sinon, en effet, là, on se blesse. Et si la technique est bonne, il n'y a pas de raison que ça fasse tendinite, quoi. Je crois que quand on a, en fait, ce genre de douleur, il faut se remettre en cause et pas juste se dire que on a un corps qui suit pas, mais de se dire qu'en fait, on n'arrive pas à composer avec son corps et qu'on fait une technique qui le blesse. Et que, voilà, on se fait mal avec, parce qu'on a une mauvaise technique et que, voilà, c'est pas, il faut pas se dire que c'est en gros, un corps qui ne nous suit pas, mais c'est aussi nous qui ne savons pas utiliser le corps dont on dispose. En tout cas, moi, ça a été ma démarche. Chaque fois que j'ai eu mal, c'était de me dire que si je changeais ma façon de jouer, je pouvais faire passer cette douleur. Donc, je crois que ça, il faut y penser.
Ouais, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis. Je me dis toujours que si j'ai une douleur, s'il y a quelque chose, c'est que j'ai trop travaillé ou que j'ai mal travaillé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comme j'aime bien ta notion de signal d'alerte, tu as continué alors que ça va dresser les poils des éventuels médecins qui écoutent ce, mais d'avoir continué alors que tu sentais la tendinite, mais de garder ça comme un signal pour te dire ouais, je change ma position. Quoi de mieux, quoi? Ouais, quoi de mieux pour se dire effectivement si je fais bien mon mouvement, je devrais pas avoir de douleur. Si je le fais bien, si je le fais correctement et que je commence pas comme un bourrin, je devrais pas avoir de douleur. Tu disais avant que tu commençais à 160 BPM, toi, le pour t'échauffer donc.
Ouais, pour les pédales, en effet, je commence à 160 BPM.
Ouais. Et après, il y a forcément l'hygiène de vie qui entre en compte, hein, qui bien s'hydrater, bien dormir et tout ça. Et du coup, j'en profite pour passer sur la deuxième partie de cette interview, tout ce qui va être tournée. Donc, tu vas partir dans 2 jours en tournée. Et en tournée, l'hygiène de vie, forcément, n'est certainement pas la même que quand t'es chez toi tranquillement, que tu peux manger ce que tu veux, boire quand tu veux, etc. Est-ce que tu peux déjà décrire à quoi ressemble l'environnement de la tournée? Est-ce que c'est un tourbus, un van, combien de concerts par semaine, etc. Tu peux parler un petit peu de ça?
Alors, tout dépend. Des fois, c'est un tourbus, des fois, c'est un van. Et la longueur aussi, ça dépend. Hein. Il y a des tournées qui se font sur 2 semaines. Des fois, même, c'est qu'une semaine. Vous pouvez très bien être dans un groupe qui va rester qu'une semaine sur une tournée. Et puis, des fois, il y a des tournées qui durent plus longtemps, hein, jusqu'à un mois. Donc, c'est très, très variable. Et les conditions sont très variables aussi, quoi. Voilà. Si on est en tourbus, ce qui se passe, c'est que on a des couchettes. Donc, on dort à l'intérieur du tourbus. Assez souvent, si les trajets sont longs, on est en train de dormir pendant que les chauffeurs conduisent. Donc, le bus bouge et le repos est très, très moyen quand c'est comme ça. quand les trajets sont plus courts, généralement, en fait, on part que le matin. Donc, si on se couche pas trop tard, on peut passer une nuit correcte sans avoir les mouvements du bus. Et puis, quand on est en van, des fois, on dort dans le van. Moi, avec Smart Crown, quand on est parti aux États-Unis, à quelques exceptions près, on n'a pas dormi allongé. En tout cas, moi, j'ai pas dormi allongé pendant pratiquement un mois. Donc, voilà. Ça peut être, ouais. Donc là, c'est variable. Après, je garde pas du tout sous cette tournée-là. Hein. C'est la meilleure tournée que j'ai faite et de loin. Mais bon, voilà, les conditions sont en effet très variables. Alors après, pour la nourriture, bon, alors moi, je suis étudiant et musicien, donc j'aime autant dire que le budget nourriture, c'est le budget que je tire le plus. Ce qui fait que quand je suis en tournée, je mange très, 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 très mal. Et j'ai une hygiène de vie qui est déplorable à ce niveau-là, et je mange beaucoup mieux quand je suis en tournée. Et la nourriture en tournée, en général, ça va, hein, parce que en Europe, on arrive, on a toujours des fruits, des légumes, des salades. On peut manger équilibré en tournée, alors là il y a aucun souci. Aux États-Unis c'est un peu différent parce que en général les salles font pas à manger, elles prévoient rien du tout et elles donnent les $10 par musicien et ensuite vous vous débrouillez avec $10 pour aller chercher à manger. Et donc là, ça a un petit peu plus tendance à finir soit en fast-food, ce qui n'est pas super bon, mais bon voilà, enfin ça m'a pas, ça m'a, moi, pas moi, ça m'a pas dérangé, mon corps a bien réagi. Ou alors, nous c'est aussi ce qu'on faisait, d'acheter tout simplement un barbecue dans les magasins Walmart où qui sont quand même réputés pour pas être chers et où on peut à peu près trouver de tout. Et donc on avait acheté notre barbecue et on a acheté de la viande à Walmart et voilà, on faisait notre barbecue le soir du concert ou sur la route. Et on mangeait comme ça quand on était aux États-Unis avec Broadcom. Donc, l'hygiène de vie en tournée, et des fois, bah, ouais, ça dépend vraiment des conditions, quoi. Ça dépend vraiment beaucoup.
D'accord. Et en Europe, donc les salles, tu arrives à la salle avant le concert et ils te préparent il y a un repas qui est prêt, quoi. Il y a une équipe qui dans les loges, vous avez un repas, quoi.
En fait, ouais, en fait, on arrive, c'est plus en mode pique-nique, hein, c'est des choses froides, un peu de charcuterie, des légumes, une salade, des fruits. Et quand on arrive, en fait, il y a ça. Généralement, en fait, c'est à ce moment-là, c'est entre 1 h et 3 h de l'après-midi, donc entre 13 h et 15 h. Ça, c'est ce qu'il y a quand on arrive à la salle et qu'elle ouvre. Et c'est à peu près à ce moment-là aussi qu'on va décharger tout le matériel pour le mettre dans la salle et commencer à monter la scène. Et donc, des fois, là, le repas est par contre un peu précipité parce que des fois, on a une demi-heure pour manger et ça va. Et puis, des fois, en fait, on grignote un peu, on décharge le matos, on grignote un peu, on va balancer. Donc, voilà. En gros, quand on arrive, il y a toujours ça. Et le soir, là, il y a quelque chose très souvent de plus cuisiné et de chaud qui arrive à la salle. Mais le midi, la plupart du temps, c'est du froid, c'est un pique-nique, quoi.
Ouais, d'accord. Et vous arrivez, vous posez votre matos, et donc qu'est-ce qui se passe l'après-midi? Parce que manger, poser son matos, faire les balances, ça prend combien de temps?
En fait, ça dépend de combien de groupes il y a et en fait, en tant qu'individu sur la tournée, ça dépend avec quel groupe on joue suivant la position dans la fiche. Parce que le premier groupe qui joue dans la soirée, c'est celui qui va terminer les balances. Et le dernier groupe qui joue dans la soirée, la tête d'affiche, c'est le groupe qui va commencer les balances. Et donc, en gros, ça va déterminer un peu à quelle heure vous allez passer dans l'après-midi et vous allez devoir faire votre planning en fonction de ça. Donc voilà, ça va vraiment changer. Mais pour les techniciens qui vont rester dans la salle, leur journée elle va commencer entre 1 h et 3 h et elle va terminer à 5 h 30, 6 h. Enfin, terminer pour la journée. Après, il y aura le concert le soir, hein. Mais ils vont être obligés de rester jusqu'à 5 h 30, 6 h à la salle de concert dans beaucoup, beaucoup de cas. Ça va prendre tout l'après-midi, quoi.
D'accord. Et vous, vous faites quoi une fois que vous avez fait les balances? Parce qu'il est possible qu'il y ait quand même plusieurs heures qui se passent, alors j'imagine.
Il y a
Vous
beaucoup
avez posé le
d'attentes.
matos.
Il y a
Ouais,
beaucoup
beaucoup
d'attentes, c'est
d'attentes.
clair. C'est clair. Déjà, le matin, enfin, suivant le rythme de vie qu'on a en tournée, moi, la plupart du temps, je vais me coucher assez vite après le concert pour essayer d'avoir la meilleure nuit de sommeil. Et puis, bon, je suis pas très, très fêtard, donc j'en profite pas beaucoup. Et le matin, je me lève. Alors, des fois, c'est pas très tôt parce que, ben, comme je disais, on se repose assez mal dans le tourbus s'il est en mouvement pendant la nuit. Donc, des fois, même des nuits de 10 ou 12 heures, on est quand même moyennement reposé. Je me lève, je travaille un peu sur la philo en général, puisque je fais des études de philo. Donc, je passe mon matin comme ça. J'attends qu'on arrive à la salle de concert. Et quand on est arrivé, des fois, la salle n'est pas encore ouverte. Et là, il y a déjà de l'attente qui va se passer, encore 1 h ou 2 h. Alors, soit je continue à travailler, soit je vais me balader et faire du tourisme. Ensuite, je vais revenir à la salle pour manger et puis pour aider à décharger le matériel. Et à ce moment-là, en général, j'ai toujours du temps pour commencer à faire des exercices de batterie avant que mon groupe balance. Donc, en général, c'est ce que je vais faire là, c'est des exercices. Ensuite, je vais faire les balances avec mon groupe et souvent après les balances, je refais des exercices. Et ensuite, là, il y a encore du temps et on peut aller faire encore du tourisme en ville si on veut ou se reposer tout simplement. Ensuite, on peut revenir pour manger et ensuite, on attend encore le moment où on va jouer. Et une fois qu'on a joué, s'il y a des groupes pour qui jouent encore après, on re-attend que les groupes aient joué. Et ensuite, ça y est, c'est le moment pour ranger le matériel. Donc voilà, la journée type, il y a beaucoup de temps d'attente qui sont pas en plus resserrés, c'est très éclaté dans la journée.
Oui, c'est très éclaté. Je me disais, les groupes qui font des tournées, qui vont dans plein de pays et tout ça, en fait, difficile de faire du tourisme. Tu vois pas forcément le pays quand t'as 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, 2 heures avant le concert, 1 heure après le concert. Tu peux pas beaucoup bouger, quoi, j'imagine.
Moi aussi, il y a vraiment des fois où il y a beaucoup de temps. Ça peut être par exemple quand le tourbus est arrivé depuis 7 heures du matin devant la salle et que la salle va ouvrir à 14 heures. Alors là, si on serait même en se réveillant à 10 heures, ça laisse 4 heures pour partir dans la ville, quoi. Donc il y a largement de temps.
Ouais.
Mais même l'après-midi, on libère assez facilement après ces balances 2 heures. Hein. Je sais pas si on arrive à 14 heures, le temps que le plateau soit monté, que la scène soit montée, tous les instruments. Admettons la tête d'affiche balance, en gros à 15h30 c'est fait. Là, admettons, je suis en tournée avec Svartkorn, on est direct support, donc ça veut dire qu'on joue juste avant la tête d'affiche. Et à 16h15, on peut partir de la salle. Donc voilà, par exemple, admettons à 16h15, on part de la salle et on peut revenir à 19h. Donc ça nous laisse 3 heures faciles là aussi à ce moment-là si on veut partir. Donc, suivant comment les journées se passent, si, il y a tout à fait le temps d'aller visiter dans les villes. Ça, il y a du temps. Des fois, c'est vrai, c'est pas possible. Hein. Ça nous est arrivé, dans certains cas, d'arriver au dernier moment, ou un peu tard, hein, ne serait-ce que 16 heures. Voilà, là, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas le temps, quoi. Mais la plupart du temps, il y a au moins 2-3 heures, quand même, d'affilée qui permettent de partir.
Ouais, c'est passionnant, c'est génial. Tu aimes ça, la vie de tournée?
Bon, c'est un peu particulier, c'est un peu particulier quand même. Ce qui est clairement bien, c'est pour moi, c'est aussi le voyage. Hein. Ça, c'est. Mais avant de partir en tournée, j'avais jamais eu les moyens de partir hors des frontières de la France, si ce n'est avec les voyages scolaires au lycée. Donc, en gros, ouais, j'étais pratiquement jamais parti. Et maintenant, je fais quand même pas mal de pays que j'aurais jamais eu la chance de voir autrement. Donc ça, pour moi, ouais, c'est clairement un truc qui est un truc bien. Après, bon, ça dépend après comment ça se passe, si les concerts sont bien, s'il y a du public qui réagit bien, parce que ça reste quand même une contrainte, hein. Enfin, on dort pas comme on voudrait dormir, on mange pas à l'heure où on voudrait manger. Ça peut être énervant parce que, très honnêtement, en tout cas pour moi, manger une fois plus à 14-15 heures et une autre fois à 18-19 heures, puisque le repas du soir est servi très tôt, ça fait deux repas serrés, c'est pas super. L'hygiène n'est pas toujours parfaite. Enfin, on est fatigué, quoi, en tournée, en fait. Même si on dort, on a toujours un peu toujours dans le brouillard. Et des fois, ça c'est lassant, en fait. Moi qui fais des études de philo, des fois, en fait, j'aimerais bien être en bibliothèque et travailler et avoir les idées claires ou avoir mon train-train quotidien chez moi et des choses comme ça. Et des fois, ça peut être un peu lassant aussi de partir comme ça. Alors pas au début. Au début, c'est toujours bien. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ouais, bon. Commence à bien faire toutes ces histoires. Si l'accueil du public est pas bon, en tout cas, ça peut rapidement finir comme ça. Mais quand l'accueil du public est bon, la motivation après, elle est là, quoi. Et il y a plus de problème. Et ça, c'est clair que ça efface tout. Mais ouais, c'est vraiment pour moi, ça va changer beaucoup. Ça veut pas dire qu'il faut que la salle soit pleine tous les soirs et tout le tralala. Mais si la salle est, je sais pas moi, ne serait-ce qu'au carre-plein et que le public qui est là est réceptif, on se dit qu'on n'est pas parti de chez soi pour rien, quoi. Voilà, c'est ça aussi, en fait, on part de chez soi pendant un mois, quoi, pratiquement. Donc, quand on a, enfin, c'est imaginer, vous êtes chez vous et en fait, on vous enlève pendant un mois et ensuite vous rentrez chez vous. Bon, vous n'avez pas envie de partir chez vous pendant un mois, en fait. Donc, s'il ne se passe rien pendant la tournée, que vous avez l'impression que ce que vous faites, ça sert à rien parce que les gens, ils s'en foutent à moitié, du coup, vous avez l'impression de perdre votre temps, quoi. Exactement comme quand vous allez travailler et que vous avez l'impression que vos collègues ils s'en foutent ou que les personnes à qui vous rendez un service s'en foutent. Là, c'est pareil. C'est pareil, sauf qu'en plus, vous n'êtes pas chez vous et que vous n'êtes pas très autonome. Il y a plein de choses. Vous attendez après les autres. Vous attendez qu'on vous donne de la nourriture. Vous attendez qu'on vous transporte d'un point A à un point B. Et du coup, voilà, franchement, quand on a l'impression que ça sert à rien et que le public s'en fout, il y a des fois, c'est dur. Hein. Heureusement, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est dur.
Et comment tu fais pour gérer ces moments alors? Peut-être que tu as une technique de philo justement ou développement personnel pour gérer ces moments où voilà, t'es crevé, t'as faim ou t'as pas bien mangé et le public ce soir-là n'est pas réceptif. Est-ce qu'il y a des moments où avec le groupe par exemple, il y a une bonne entente, vous en parlez, vous mettez les choses sur la table ou j'en sais rien. Comment est-ce que tu gères ça émotionnellement?
Ça dépend aussi des groupes avec qui je vais travailler. Des groupes, en fait, ils parlent pas du tout après le concert, ils n'ont pas envie. Et puis il y en a d'autres, ouais, on va débriefer un peu après en backstage, dans les loges, en disant, ouais, ce soir c'était bien, ce soir c'était pas bien, ce soir ça l'a bien fait pour moi, ce soir ça l'a pas fait pour moi, etc. En fait, ce qui va sauver, c'est le rapport à l'instrument, quoi. Si on s'amuse bien avec son instrument, si le public est pas trop chaud, en fait, on va commencer à se mettre en mode, je suis comme à la maison avec enfin, en tout cas pour moi avec ma batterie, et je m'amuse, et parce que c'est mon instrument que j'aime le faire, et puis je profite. Du fait que, parce que c'est ça aussi, ça à prendre en compte, quand on est batteur en tournée, en fait, on peut jouer de la batterie que pendant le concert. Et donc, des fois, c'est aussi très frustrant. Donc, si le set, il fait 45 minutes, qu'on joue 45 minutes devant le public, si le public s'en fout, bah, il reste que à profiter du fait qu'on a une batterie à soi et qu'on en fait pratiquement ce qu'on en veut. Enfin, évidemment, il faut jouer les morceaux et pas autre chose, hein, mais on peut profiter de la batterie pendant 45 minutes. Donc, bah, ça, des fois, ça sauve aussi. Moi, c'est souvent ça, quoi. Quand la tournée commence à être lassante, et à bout d'un moment, c'est la batterie qui reprend le dessus, quoi, en fait. Et je vais vraiment me concentrer sur l'instrument et le plaisir que j'ai à jouer, parce que j'aime jouer de la batterie, et c'est ce qui va faire le truc. Et puis après, le tourisme aussi, voilà. Ça, c'est partir dans la ville au bout d'un moment. Et il y a des jours, je me dis, bon, là, j'en ai un peu marre, je vais pas faire mes exercices aujourd'hui, je vais aider à décharger le matériel, et après, je pars. Voilà. Et je pars, je prends les transports en commun, je danse dans la ville où on est, et je prends mon temps. Et ça permet de s'aérer l'esprit et de se dire, bon, bah, quand on a quand même de la chance d'être ici, on tout ferait payer, et que c'est bizarre. Tout le monde n'a pas la chance de faire ça, et qu'il faut profiter quand même du truc, quoi. Donc quand le public est pas super chaud et qu'on est un peu lassé par le rythme de vie, bah, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est me concentrer sur l'instrument pendant que je suis en train de jouer, me rappeler pourquoi je suis ici, et puis profiter du fait que je suis dans des endroits où je pourrais pas aller, par mes propres moyens.
Ouais, c'est sûr qu'il y a plein de côtés positifs à, même si ça se passe mal, déjà se dire, bah, tout simplement, tu fais de la batterie. Déjà, premier truc, c'est oui, je kiffe ça. Et puis après, pour les passionnés de voyage, etc., de découverte, il y a un million de choses positives sur lesquelles on peut se concentrer. Et avec les autres membres du groupe, il y a une bonne communication. Alors, des différents groupes, je veux dire en général, parce qu'il y a quand même, tu joues quand même avec pas mal de groupes. Et est-ce que ça passe bien? Est-ce que des fois, il y a des couacs en tournée, ça pète des fois, ou comment vous gérez ça, autant de temps
Alors,
ensemble?
quand je suis en session pour un groupe, c'est-à-dire que je remplace le batteur, que le groupe n'a pas de batteur, qu'ils ont besoin d'un batteur temporaire, en
Comme
général,
United?
ouais. Alors, avec United, pour le coup, ils sont très sympas, donc il y a tout de suite on se sent à l'aise avec eux, hein, donc là, par exemple, ça va. Mais c'est vrai que ça m'est eu arrivé des fois en session de juste faire abstraction de tout ce que moi je pouvais penser, d'écouter les autres et puis de rien dire, quoi. Quand il y avait un problème, par exemple, on ne donne pas son avis, quoi, quand on est en session, de toute façon, on est employé, quoi, presque. Donc là, dans ce
Ouais.
cas-là, moi, si se passe quelque chose, même si je ne suis pas d'accord, ben, je dis rien et j'attends que ça passe, quoi. Quand c'est mon groupe, là, on peut plus discuter, donc il y a plus d'échanges. La plupart du temps, ça se passe bien. En fait, c'est pratiquement jamais mal passé. Une fois, c'est eu arrivé qu'en effet, il y ait un accrochage et qui, pour le coup, c'était vraiment pas les nerfs et la tension, mais c'était vraiment justifié. Il y avait vraiment besoin d'une mise au point par rapport à un des membres du groupe. Et voilà, ça a été fait. Et je crois qu'il faut rester adulte, quoi, dans ces moments-là, et mettre les choses au point avec responsabilité. Parce que y a de la promiscuité et il s'agit pas de se taper dessus, quoi. Quand il y a quelque chose qui se passe mal, ça faut faire attention à ça, quoi. Et il faut pas oublier qu'après on va jouer sur scène avec ces gens-là et il faut que l'ambiance elle reste, parce que ce qui est terrible, c'est de se retrouver sur scène avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être, quoi. Ça, c'est le pire truc. Vraiment, ça ruine le concert. C'est impossible d'apprécier quoi que ce soit quand on est sur scène avec des gens qu'on n'aime pas. Ça, c'est le pire. C'est vraiment le pire. Donc, il faut prendre sur soi des fois en tournée et se dire que des fois aussi c'est difficile pour tout le monde, et maintenir une bonne ambiance, une bonne communication, et voilà. Et quand bah, il y a des, je sais pas, par exemple, il y a un membre dans le groupe qui joue mal et il faut lui dire de retravailler telle partie de tel morceau parce qu'il a un peu oublié, bah voilà, on peut lui dire gentiment et en général il va le reconnaître et ensuite il va régler le problème, et au prochain concert tout roule, quoi, et il y a pas de souci.
Ouais, faire preuve de tact, c'est toujours bien communiquer, quoi. Toujours bien, et pas attendre que ça pète, tout de suite lui dire, par exemple, là, tu disais, oui, c'est un morceau qui passe pas bien, c'est une partie qui passe pas bien, tout de suite le dire, et pas venir 2 mois après en disant, mais t'es chiant, ça fait 2 mois que ça passe pas, et que, voilà, et que ça explose. Ouais.
Ouais,
Toujours
en
bien
fait, en tournée,
communiquer.
on peut pas se permettre, ouais, de faire des trucs comme ça, parce que franchement, ça ruinerait le plaisir de tout le monde et enfin, on est quand même là pour profiter du truc, quoi. C'est un peu la consécration aussi pour un musicien d'être en tournée. Donc, bah, des fois, du coup, quand il y a un truc qui se passe mal, ça frustre encore plus. Mais le but, c'est aussi, bah, voilà, de prendre sur soi, d'essayer de régler les choses avec responsabilité et tact. Et puis voilà. Mais en tout cas, enfin, moi, dans mes expériences, les relations humaines en tournée, ça s'est toujours bien passé, à une exception près, qui était vraiment, bah, c'était un cas un peu extrême, quoi. Sinon, ça va. Franchement, pas de souci de ce côté-là.
D'accord. Ok. Et comment est-ce que vous vous préparez pour une tournée? Est-ce que, alors forcément, bah, tous les morceaux, beaucoup de répètes, que tous les morceaux roulent nickel, théoriquement. Et après, comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous faites avec le groupe ou que tu fais tout seul, que tu travailles plus sur l'instrument ou...
Alors, en fait, là, il y a ce qu'on aimerait et il y a la réalité. Et en fait, ça diffère beaucoup. Parce que tu vois, ne serait-ce que partir avec tous les morceaux bien préparés, je peux te garantir que ça n'arrive pas toujours.
Ok.
Non, des fois, on part avec, ben voilà, c'est juste moyennement prêt. Enfin, je veux dire, on n'est pas à l'arrache en connaissant pas les morceaux. Mais clairement, je sais pas moi, 4 heures de répète en plus, ça aurait pas fait de mal, quoi. On va dire ça comme ça. Parce que bah en fait quand il y a des groupes qui sont éclatés géographiquement, bah des fois c'est difficile. Avant une tournée qui va durer 3 semaines, il faudrait encore se libérer une semaine pour faire une semaine de répète intensive juste avant. Il y a des fois c'est pas possible pour tout le monde, quoi, tout simplement. Et même en termes de budget, des fois d'héberger tout le monde dans une ville, c'est pas possible. De réserver un local de répétition aussi, par exemple, sur une longue durée, des fois c'est pas possible. Donc des fois on part à moitié prêt. Et ce qui est important là, c'est que chacun ait très bien travaillé à la maison, pour que quand on arrive ensemble en répète, il n'y ait pas de gros problèmes à régler. Voilà, ça c'est hyper important de savoir que la répète, normalement en fait, il n'y en a pas besoin, quoi. C'est là pour vérifier et se mettre en confiance une répète et pas pour travailler. Parce que voilà, il y a toujours un manque de répète avant de partir en tournée. Enfin, moi j'ai pratiquement toujours constaté ça. Et si on arrive en se disant qu'on va régler que certains problèmes en répète, là ça peut être vraiment pas bien pour la suite des événements. Après, l'idéal, c'est aussi de faire des résidences, c'est-à-dire de voir avec une salle de concert et de leur dire est-ce qu'on peut répéter sur votre scène, est-ce qu'on peut travailler la prestation scénique, c'est-à-dire comment on va bouger sur scène, etc. Et évidemment, c'est toujours le mieux, mais pareil, ça vaut cher, ça prend du temps et tous les groupes peuvent pas le faire avant de partir en tournée. Donc, ouais, il y a ça. Moi, après, à la batterie, avant de partir en tournée, ce que je vais faire, suivant le groupe, c'est justement de me préparer de sorte à ce que j'ai vraiment, mais pas du tout besoin de répète, quoi. Parce que s'il y a des groupes, je sais que je vais très très peu répéter avec eux avant de partir, je veux que quand j'arrive en répète, tout roule direct et que tout le monde soit en confiance et que personne n'ait envie de répéter plus parce que ça va. La confiance est établie. Pour moi, c'est le plus important, la confiance avant de partir parce que la répète s'est bien passée et personne n'a peur que la tournée foire, quoi. Donc, si je sais qu'il va y avoir peu de répètes, je veux vraiment, vraiment travailler plus les morceaux chez moi. Ça veut dire que ce que je peux être amené à faire, c'est bon, ben, j'écris le métronome sur la piste du studio, par exemple, et je vais vraiment mettre la piste du studio pas fort du tout dans mes écouteurs quand je suis en train de jouer, de sorte à ce que j'arrive à peine à distinguer ce qui se passe et que du coup ça fasse vraiment travailler ma mémoire. Et comme ça, je vais me rendre compte s'il y a un endroit où je suis vraiment dépendant de ce que j'entends pour savoir où j'en suis dans le morceau, ou si au contraire, je peux arriver à jouer sans rien entendre ce que font les autres personnes. Ça, la batterie, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'occasions où les retours qui nous permettent sur scène d'entendre ce que font les autres sont très mal réglés. Et moi, ben, alors, Melekech, par exemple, le premier concert que j'ai fait avec eux, c'était à Lyon. J'avais eu 2 jours à peu près pour apprendre le set complet. Tu te rends bien compte que du coup, je le connaissais bah, difficilement. En 2 jours, ça ne fait pas beaucoup. Je l'avais presque jamais joué sur une batterie. J'avais pas de retour. J'entendais pas du tout ce qu'il faisait. Alors, malgré tout, j'ai fait qu'une erreur que j'ai pu rattraper parce que le guitariste de Melekech s'est retourné et m'a montré son manche et ça m'a permis de deviner la partie qu'ils étaient en train de jouer. Et sinon, je ne savais pas ce qu'ils étaient en train de faire du tout le concert. Et ça, c'est extrêmement angoissant quand on est batteur, parce que du coup, on sait que si on fait une erreur, on peut ne pas l'entendre, ne pas la rattraper, et les autres, ils se démerdent, quoi, en fait. Ils peuvent pas compter sur nous après quand c'est comme ça. Alors ça, voilà, c'est compliqué. Et du coup, en tant que batteur, bah, j'aime me dire que même si j'entends rien, je sais que je vais pas faire d'erreur, et que voilà, j'ai pas à stresser sur scène parce que je les entends pas, les autres, quoi. même quitte à me dire, en fait, il faut peut-être mieux que je les entende pas parce qu'ils risquent de faire une erreur qui va me faire, qui moi va me faire tromper. Et donc, voilà, j'essaye d'arriver avec cette attitude-là en me disant, je peux jouer même avec des retours tout pourris où j'entends strictement rien. Donc voilà un peu ma
Super.
préparation. C'est comme ça que j'essaye de partir. Encore une fois, ça, c'est l'idéal. Des fois, ben, c'est pareil, même à la maison, ben, juste pas le temps. Et quand il n'y a pas le temps, il n'y a bien pas le temps. Et des fois, en tournée, pendant, quand on prend l'avion ou des trucs comme ça, ben, je finis d'apprendre les morceaux, enfin, les apprendre, pas les apprendre, mais les réviser. Parce que ben, j'ai pas eu le temps de les travailler autant que ce que j'aurais voulu. Parce que, ben, faut pas oublier que la condition de musicien aujourd'hui, c'est compliqué, qu'on gagne pas assez d'argent pour en vivre et qu'on a des activités à côté. Et du coup, ça fait que on peut pas travailler autant que ce qu'on voudrait des fois, et il faut essayer de faire en sorte que malgré ça, on va bien s'en sortir. Donc il faut trouver des moments pour bosser qui des fois sont pas idéaux, comme bah, dans l'avion, dans le train, des choses comme ça. Mais il faut quand même arriver à se concentrer dans ces lieux-là.
Et alors, comment tu travailles dans ces lieux-là, pour apprendre un morceau, par exemple? Comment est-ce que tu te débrouilles dans un train ou dans un avion?
Bah, je veux tout simplement l'écouter, hein, et puis essayer de me projeter derrière la batterie, de m'imaginer derrière la batterie en train de le jouer pendant que je suis en train de l'écouter et de me laisser distraire par rien, ce qui est difficile puisque des fois il y a quelqu'un qui parle et ça me fait d'entendre sa voix, ça suffit pour avoir l'attention détournée, des choses comme ça. Donc on regarde par la fenêtre du TGV par exemple et puis ça y est, hein, des fois ça suffit pour être distrait, hein, donc c'est pas facile. Mais en gros c'est ça, je mets le morceau. Et puis, je m'imagine derrière la batterie en train de jouer le morceau. Et c'est comme ça que je vais travailler en essayant de rester vraiment concentré sur le morceau et de ne pas me laisser distraire à un moment donné.
D'accord. Et donc en faisant une visualisation, tu te visualises derrière la batterie, en train de faire le morceau.
Exactement.
Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose, la visualisation, est-ce que c'est quelque chose que tu fais que dans ces moments-là pour apprendre un morceau dans des conditions particulières, comme le train ou l'avion, ou c'est quelque chose que tu fais aussi à d'autres moments que tu intègres dans ton entraînement?
Oui, quand je commence à apprendre un morceau, c'est-à-dire que quand je vais commencer à apprendre un morceau, je vais déjà essayer de le mémoriser sans visualiser précisément sur la batterie ce que ça va donner, hein, et juste de mémoriser en gros ce que je dois jouer à chaque moment, la structure du morceau aussi, d'apprendre les riffs de guitare de sorte à ce que je puisse me chanter le morceau et le connaître voilà de mémoire. Ça va être la première étape. Et la deuxième étape, ça va être de visualiser, de commencer à visualiser les mouvements que je vais devoir faire derrière la batterie, toujours en écoutant le morceau. Et du coup, en général, même si je l'ai jamais joué sur la batterie, sauf si le morceau est très très compliqué, une fois que j'arrive derrière la batterie, dès la première fois que je joue, ça va passer.
D'accord, c'est très intéressant. J'en parlais pendant la dernière interview que j'ai faite de Jeff Mooney, qui donc aussi est batteur, percussionniste et compositeur, et qui parlait de la visualisation, quelque chose qu'il a travaillé au Musicians Institute à Los Angeles et que ses professeurs lui ont appris. Et moi, c'est quelque chose que je mets en place depuis des années, mais en termes de développement personnel, pour développer ma motivation, ma confiance en moi. Et j'ai commencé seulement récemment à le faire pour la musique, et c'est extraordinaire, hein. Je ferai un article là-dessus aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc au moment où je publierai l'interview, l'article sera certainement en ligne, je mettrai un lien en dessous du podcast. Mais oui, c'est la visualisation, c'est quelque chose d'extraordinaire qui permet vraiment d'avoir, sans même avoir de baguette en main, qui permet littéralement de faire progresser à la batterie sans avoir de baguette nécessairement en main. J'entrerai plus en détail dans l'article que j'écrirai là-dessus. Et donc tu disais que, enfin, t'as été batteur de session pour Be Nighted, par exemple. Pour ceux qui veulent devenir professionnels, comment est-ce qu'on fait pour devenir batteur de session de Be Nighted? Comment est-ce qu'ils t'ont appelé
Alors en fait, ce qui m'a aidé sur ça, c'est de faire des vidéos par Internet, vulgairement, hein. Clairement, ça m'a été utile. Donc c'est le premier truc, bah, de mettre son travail en ligne, de montrer qu'on est capable de jouer tel et tel morceau, avec un son correct, hein. Faut pas filmer ça juste avec une caméra lambda parce que ça sert à rien si personne comprend. Surtout aujourd'hui, y a de plus en plus de productions faites à la maison, qui valent presque des productions studio, donc bon, il faut avoir un minimum de qualité quand on met en ligne, ça c'est sûr. Donc ça c'est le premier élément qui peut aider. Et le deuxième élément qui peut aider, c'est de s'intégrer à la scène locale de là où on est. Et si on est dans une zone où il n'y a pas de scène locale, de déménager. En gros, c'est triste à dire, mais bon, alors moi, c'est mon gros défaut hein, de m'intégrer à la scène locale. Enfin, je veux dire, je sais pas, j'ai l'impression d'être pas avoir ma place, d'être juste quelqu'un qui veut gratter l'amitié dans la scène locale, mais c'est des gens que je connais pas et si j'ai pas de raison d'aller vers eux ou que c'est juste pour me faire connaître, voilà, j'ai l'impression d'être un escroc et d'avoir rien à faire ici. Donc ça a été mon gros point faible. Hein. J'ai mis du temps en fait à m'intégrer à la scène locale et je me suis jamais vraiment intégré à la scène locale de Lyon. Ce qui m'a aidé par contre, c'est en fait un jour d'arrêter de penser que par le groupe que j'avais créé avec mes potes au lycée et de me dire je vais trouver un groupe originaire de Lyon. Et là, je suis rentré dans The Seven Gate et de faire partie de ce groupe de Lyon, ça m'a clairement aidé à me faire un petit peu connaître et à pouvoir trouver plus tard d'autres groupes quand ils avaient besoin de batteurs. Donc, il faut se faire des contacts sur la scène locale parce que des fois, sur votre scène locale, vous avez aussi des gens qui ont énormément d'autres contacts et qui vont vous aider si vous êtes bon et que vous pouvez servir dans un autre groupe. Ils vont donner votre contact et ça pourra vous être utile. Donc, il faut pas croire que tout se fait par Internet, ça aide, mais c'est bien de faire aussi avec les contacts humains de personnes sur la scène locale. Ça marche beaucoup aussi encore.
Ouais, donc de faire du networking, quoi, hein, de rencontrer des personnes qui sont dans le même milieu, qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu fais. Et de, oui, c'est clair. Les vidéos que tu fais. Alors moi, c'est comme ça que je crois que je t'ai découvert. Ça fait un petit temps. Il me semble que c'est avec une cover de The Black Dahlia Murder. Et donc sur YouTube, il me semble que c'est comme ça que je t'ai découvert avec une cover que tu avais fait d'eux et qui était très très bonne, hein, qui était vraiment excellente. Et donc Benighted, eux, ils sont de Lyon.
Oui, ils sont de Lyon-Saint-Étienne, ouais, sur la région Rhône-Alpes, quoi. Mais non, le groupe s'est un peu éparpillé, mais c'est originaire de Saint-Étienne même au départ.
D'accord. Et ils t'ont, du coup, c'est sur Internet qu'ils t'ont découvert ou c'est par un contact de contact, quelqu'un qui connaît quelqu'un ou?
J'ai eu différentes explications sur cette chose-là. Je pense que c'est un tout. Hein. Ouais, à un moment, ils avaient besoin d'un batteur et puis ils avaient entendu parler de moi, ils ont vu des vidéos et. Ah, je sais que Gab, donc le guitariste de Benighted, par exemple, avait apprécié une de mes covers de Between the Buried and Me, puisqu'il est assez fan de ce groupe-là. Et voilà, il s'est dit, tiens, pourquoi pas? Alors que tu vois, c'est un style qui est pourtant différent. Hein, et ouais,
Ouais.
ça avait fait partie des choses qui lui avaient fait dire que ça pouvait le faire pour remplacer. Donc voilà. Et une chose qui a peut-être aidé, mais un peu moins aussi, je pense, là par contre, mais ça peut peut-être aider. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que quand les morceaux sortaient, j'essaie de faire la vidéo et de la mettre en ligne, en gros, dans les 24-48 heures après la mise en ligne. Ce qui veut dire qu'en gros, vous avez appris le morceau en quelques heures, parce qu'après, il faut l'enregistrer, puis il faut faire le son mixé, et puis après, il faut faire la vidéo, puis après, il faut mettre en ligne. Donc voilà, que ça prend du temps de faire tout ça, et pour du coup faire un cover d'un morceau qui vient de sortir en 24-48 heures, faut pas chômer. Donc, alors moi, en fait, j'en ai plein des covers comme ça sur Internet. Hein, pratiquement tous les The Black Dahlia Murder que j'ai mis en ligne, en fait, c'est ce que j'ai fait pour ce groupe-là. Pour le coup, à chaque fois qu'il sortait un truc, puis un temps, je faisais de suite le cover. J'ai fait ça pour Animal as Leader aussi. Alors après, ça donne des covers qui parfois sont approximatifs au niveau du jeu, hein, pas forcément, puisque en gros, vous l'avez mémorisé et puis vous êtes allé derrière la batterie et vous l'avez joué. Donc forcément c'est un peu approximatif, mais ça montre aussi aux gens que vous pouvez apprendre très vite et atteindre un niveau de propreté qui pour du concert le fera et qui est sans doute mieux pour un groupe que d'annuler un concert. Donc ça peut montrer vos capacités à apprendre des morceaux.
D'accord, ouais, ça leur prouve que oui, tu es très rapide. Tu as cette, je me disais, pour un groupe comme Animals as Leaders, c'est quand même des choses qui sont très complexes dans la composition, dans la structure, dans les morceaux. C'est pas The Black Dahlia Murder ou comme du Despised Icon. On parlait de Despised Icon plus tôt. C'est quelque chose qui, j'imagine, va être beaucoup plus rapide à faire une fois qu'on a la technique à retenir. Ça doit pas être très très complexe, alors que du Animals as Leaders. En 24 heures, comment est-ce que tu as géré quelque chose comme Animals as Leaders?
Je pense que c'était aussi parce que au bout d'un moment, je me suis habitué à apprendre des morceaux. Donc, si j'avais commencé par ça, j'y serais pas arrivé. Je crois que ça, déjà, c'est sûr. Il faut un peu avoir l'habitude d'apprendre d'oreille et être bien entraîné pour y arriver. Bon, alors ensuite, bah, tout simplement, le premier truc, c'est de choper le morceau sur Internet. Donc, en général, trouver un streaming et puis l'enregistrer via le streaming sur son ordinateur. Donc, ça impose aussi, parfois, je le signale juste au passage, d'avoir une qualité de son pas non plus parfaite, ce qui fait qu'on va louper des détails qu'on va pouvoir repérer que quand la version enfin, que l'album sera sorti et qu'on aura accès aux pistes en bonne qualité. Ça m'est arrivé sur deux, trois covers de me dire, ah, j'avais complètement oublié le détail là, mais en fait, on l'entend pas du tout dans la version que j'avais. Donc, voilà. Et ensuite, le premier réflexe, après une fois qu'on a le morceau, c'est pas de se mettre à l'écouter en boucle. Alors ça, non. Si on veut vraiment faire vite, ce qu'il faut faire, c'est écrire le métronome sur le morceau tout de suite. Tout de suite, c'est le premier truc à faire. Et tu imagines bien que pour Animal as Leader, si on n'a pas l'habitude d'écrire des métronomes et de savoir repérer les mesures, ça va être très compliqué. Puisque quand on trouve des mesures en 4/4 dans Animal as Leader, on est heureux. Et voilà, moi j'ai même trouvé une 27/8 dans un morceau. Donc voilà quoi, c'est dur. Ça prend du temps. Hein. Moi j'ai passé jusqu'à, je sais pas moi, une demi-heure, 1 heure à écrire le métronome sur un morceau d'Animal as Leader, alors que ça peut prendre un quart d'heure sur un morceau plus simple, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est
Ouais,
le
donc
premier
de
truc.
décrire. Pardon? Le
C'est le
premier
premier
truc,
truc,
ouais, tu
ouais.
disais, donc décrire le métronome. Donc c'est-à-dire, t'entends par là, écrire le temps. La noire, quoi. Écrire la noire sur chaque sur la partition.
Ouais. Pour avoir le métronome qui compte derrière et qui nous dit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Ouais.
Bah, c'est pas, voilà, ça, c'est du 4-4, hein. Et puis, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et après, comme ça, on écoute le morceau avec le métronome qui fait ses bips avec un bip accentué sur le premier temps. Et voilà. Et du coup, j'écoute jamais juste la piste. J'écoute la piste avec le métronome. Là, je peux commencer à mémoriser. Et déjà, ça aide beaucoup, hein, d'avoir le métronome écrit par-dessus. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, surtout sur du Animal as Leader, ça aide. Faut vraiment dans la démarche de se dire le premier temps il est ici, le premier temps il est ici. Cette mesure c'est une 7, donc je sais à peu près qu'est-ce que ça va, enfin quel type de partie il peut y avoir dessus. Là, ça ramène tout notre expérience de batteur où nous par exemple quand on était sur la batterie on avait une mesure en 7 à jouer et on savait à peu près comment la ressentir. Et là, on va pouvoir se servir de ça pour apprendre plus vite. Donc, écrire le métronome, c'est hyper important, quoi. Sinon, ça ferait des mauvaises vidéos, quoi. Donc, première étape, écrire le métronome. Et la deuxième étape, c'est de suite de commencer à mémoriser partie par partie. Pas le morceau d'une traite, partie par partie. Alors, c'est pas interdit de l'écouter deux, trois fois en entier, mais très rapidement commencer à l'écouter et à l'apprendre vraiment limite seconde par seconde et puis minute par minute etc. Et une fois que c'est fait, commencer à visualiser ce que ça va ramener à la batterie, de taper sur une table, enfin de faire du air drumming éventuellement, des trucs comme ça quoi, de
Ouais.
commencer à repérer ce que ça va donner derrière la batterie. Et une fois qu'on l'a bien mémorisé, à ce moment-là on peut aller derrière la batterie. Alors des fois c'est un peu difficile au début, on se rend compte qu'on n'a pas assez mémorisé, qu'on est un peu perdu par moment etc. Donc là, c'est le moment de remobiliser tout ce qu'on a mis dans sa mémoire derrière la batterie, parce que le morceau, il laisse pas le temps de réfléchir à ce qu'il faut jouer, quoi, faut que ça devienne instinctif. Donc là, il y a de nouveau une petite marche à franchir. Et ensuite, en général, je le réécoute quelques fois en visualisant ce que je dois jouer, donc sans vraiment jouer derrière la batterie. Et là, ça y est, après, je suis prêt pour l'enregistrement, pour faire la vidéo. Du morceau et il s'est écoulé peut-être 6 heures depuis que le morceau a été mis en ligne à ce moment-là à peu près.
D'accord. Alors, je me demande juste, avant tout ça, est-ce que tu sous-entends que tu as réussi à avoir bah non, tu ne sous-entends pas que tu as réussi à avoir la partition, puisque sinon tu aurais le métronome écrit. Le déchiffrage, parce qu'on parle de métronome, d'apprendre et tout ça, mais on n'a pas parlé de la partie de déchiffrage.
C'est-à-dire que moi, je l'apprends vraiment d'oreille sans écrire quoi. Si tu veux, je vais pas me dire tiens là c'est des croches et des triolets, c'est ceci, c'est cela. Ça pour enfin moi en termes de solfège rythmique, je suis pas hyper bon non plus. Donc si je devais le noter pour le premier Animal as Leader que j'avais fait pour moi pour m'entraîner pas en mode urgence, j'avais écrit la partition. Donc là on pouvait vraiment parler de déchiffrage. Mais ensuite, je l'ai pas fait, quoi. C'est vraiment apprendre d'oreille, frappe par frappe, de me dire qu'est-ce qui était joué, et sans forcément me dire, ok, c'est des croches, c'est des doubles croches. C'est pas forcément un truc que je me disais, j'aurais pas été capable d'écrire le morceau après quoi. J'étais appris d'oreille.
D'accord, ok. Donc il n'y a pas de... Ouais, la partie, le déchiffrage se fait mentalement tout de suite. C'est tout de suite une interprétation en fait. Donc en même temps, ça doit beaucoup t'aider à le, à l'apprendre, à le mémoriser. Le fait de tout garder en tête comme ça. D'accord, c'est intéressant. Je m'attendais, oui, à ce que tu dises que y a une partition ou quelque chose. Non, c'est tout de suite un travail mental et donc juste un métronome sur les, bah, sur tous les temps, quoi.
Il faut oublier le but premier d'une partition, c'est surtout à une époque où on ne pouvait pas enregistrer la musique, c'était de se rappeler des idées qu'on avait eues. C'est d'abord pour ça qu'on écrivait. Et puis pour que ce que nous on voulait on voulait quelque chose soit joué, donc on l'écrivait pour donner la partition à d'autres personnes. Mais en termes d'apprentissage, une partition c'est très mauvais. Et les gens qui jouent de la musique classique, bah, ils ont leur partition et ils les enlèvent pas. Mais c'est parce que c'est pas. Si on leur enlève, si on les enlevait, il y a des tas de trucs qu'ils feraient instinctivement. Ça, je suis persuadé. Et ils la connaissent. Hein, ils ont mémorisé une bonne partie. Et je pense qu'ils auraient quand même des fous sur certains endroits. Moi, tout ce que j'ai essayé d'apprendre en partition, ça a été le cas. Alors que je crois que je connais la partition, et au moment où je l'enlève, ben, je me rends compte qu'en fait, il y a des moments où je l'ai mémorisé et d'autres non. Donc, je pense vraiment que de passer par une partition pour mémoriser, c'est pas le mieux. Il faut le mieux pour mémoriser vite, dans l'urgence, en tout cas. C'est de faire sans partition et de suite d'oreille. Et si jamais un jour vous vous retrouvez par exemple à apprendre un set pour un groupe, tous les morceaux du groupe pour un concert dans l'urgence, il faut pas passer par des partitions, en tout cas pas à la batterie, hein, je pense pas. Alors peut-être que pour certaines personnes ça marche hein, comme ça. Moi je sais que si je fais ça, je vais arriver à jouer le morceau plus rapidement. Par contre, après je serai dépendant de la partition, j'en aurai besoin et je vais la lire en fait pendant que je suis en train de jouer. Donc il vaut mieux que je l'aie pas.
D'accord, c'est vraiment intéressant comme point de vue. J'avais même pas pensé à ce. Moi, je suis plutôt du genre justement à chercher la partition et après à chercher à m'en débarrasser le plus vite possible. Et là, par exemple, pour, je me suis lancé un challenge avec le lancement de mon blog qui est de jouer. Tu vois certainement quelle chanson c'est, New Millennium Cyanide Christ de Meshuggah. Tu vois quelle chanson c'est?
Alors, je connais très très peu Meshuggah pour tout dire.
D'accord. Enfin,
Mais je
Meshuggah, on est
comprends le
dans du
style.
4x4, mais dans des polyrythmiques et des choses très compliquées, un peu à l'idée de Animals as Leaders, où la première fois que tu l'écoutes, tu te demandes qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quoi. Donc j'ai tout de suite cherché à avoir la partition pour me dire, d'accord, ok, c'est ça, il est en train de faire ça, parce que sinon j'ai la tête qui brûle, quoi. Et le fait de, alors, petite technique aussi, alors que moi j'ai utilisé personnellement, c'est de ralentir la chanson. Ça m'a beaucoup aidé de la ralentir pour, pareil, il y a des choses où je me disais, mais est-ce qu'il fait ça ou est-ce qu'il le fait pas? Des fois, par exemple, un coup de grosse caisse ou si t'as la guitare et la basse en même temps, il y a des trucs où je me disais, est-ce qu'il met une grosse caisse là ou pas? Est-ce que, et le fait de ralentir m'a beaucoup aidé. C'est un truc super facile avec un logiciel comme Audacity. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé aussi. Ok, d'accord. Bah écoute, on a bien fait le tour des questions et des deux sujets que je voulais vraiment traiter, la vitesse et la tournée. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais aborder encore, quelque chose dont tu aimerais parler ou que tu penses que tu serais qui t'inspire?
Bah écoute, à part insister sur le fait que il faut réfléchir à l'intention et à ce que vous allez vouloir exprimer avec votre instrument, je crois que je dis déjà beaucoup. Donc si ça peut aider des gens, bah écoute, je serais très content. Mais encore une fois, il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez exprimer avec votre jeu et puis conditionner votre pratique de l'instrument à cet objectif-là, et puis qui peut être revu avec ce que vous ressentez derrière la batterie. Mais en tout cas, je pense que c'est important de ne pas se laisser un petit peu trop omnibuler par la mode de jouer rapidement qu'il peut y avoir aujourd'hui, et de se dire que en fait, il y a des choses qui dans la batterie sont très très intéressantes et qui n'ont rien à voir avec ça, et des gens qui jouent très bien, et des fois en faisant des choses hyper simples. Mais qui collent tellement bien avec la musique qui est derrière, qui sont tellement bien exécutés, que ça va ressortir là, magistralement et peut-être beaucoup plus que des choses qui sont très techniques et qui des fois en concert sont un peu approximatives parce que ça demande un son aussi très très équilibré. Donc voilà, de pas trop se laisser omnibuler et des fois détruire par la technicité à tout prix, et se rappeler que ce qui compte avant tout, c'est que c'est que ça soit efficace d'un point de vue artistique et musical avant un point de vue technique.
Ouais. Et là, quand tu dis ça, je pense à Benny Greb, qui me fait halluciner de par sa capacité à groover. Alors déjà dans tous les sens, dans tout ce qu'il fait, mais avec des rythmes ultra simples. Souvent, il y a vraiment des vidéos de tout ce qu'il fait. En gros, enfin, tout batteur, c'est le jouer, quoi. Mais le faire sonner comme lui le fait sonner, il y en a beaucoup qui groovent. Mais Benny Greb, il est vraiment il m'impressionne. Voilà, ça m'a inspiré ce que tu as dit. Ok, bah dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre les personnes qui sont intéressées par ton actualité et déjà par ta tournée? On veut te voir en concert. La tournée, ça se passe où? Vous passez où?
Alors la tournée commence en Suède, de Suède ensuite on ira en Finlande, puis en Estonie, en Pologne, on passe par l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la Suisse. L'Italie, ensuite la Slovénie et puis la Slovaquie pour terminer.
Et ça, c'est Svartkrown ou
Alors là, je pars avec Melekech sur cette tournée.
Melekech.
Ouais, avec Melekech. Donc la tournée, c'est Nile en tête d'affiche suivi de Melekech. Et puis, alors j'ai la confirmation du tourneur et j'attends l'annonce officielle, mais normalement Mithridatic se joindra à cette tournée pour les dernières dates. Donc ce sera double set pour moi. Avec Mithridatic et avec Melekech, donc ça va être une première en tournée. J'ai déjà fait sur des concerts, mais pas en tournée. Donc
Ah ouais.
voilà ce qui se passera pour cette tournée qui promet d'être une belle expérience.
Ah bah ouais, génial. D'accord. Ok. Et donc les personnes qui je mettrai le lien de la page de donc Melekech. Et où est-ce qu'on te suit aussi? Donc il y a YouTube où on peut voir beaucoup de covers, beaucoup de. Ça, je conseille vraiment aux auditeurs d'aller voir ta chaîne YouTube. Hein. Je mettrai un lien. Il y a beaucoup de choses et c'est très intéressant à voir. Et ton Facebook aussi, tu as un Facebook Kevin Paradis Drummer, il me semble.
Ouais, je crois que c'est ça. C'est soit Kevin Paradis Drummer, soit Drumming, je sais pas, un des deux. Mais oui, c'est certainement là où il faut aller pour avoir le plus d'actualité. J'ai un site internet, mais ça demande tellement de temps de le mettre à jour que ça fait quelque temps qu'il est plus à jour. Donc pour avoir les dernières nouvelles, c'est certainement sur ma page Facebook qu'il faut se rendre.
Ok, bah merci beaucoup Kevin.
Mais
Et
je t'en prie.
je vais mettre tous ces liens dans la description de l'article. Et bah c'était génial. Merci beaucoup à toi.
Merci à toi, ça m'a fait très plaisir de répondre à tes questions.
Super. À bientôt Kevin.
À bientôt.
Ciao ciao.